Il est 18h, vous écoutez Europe 1.
Il y a des offres incroyables et des affaires à faire, les gens viennent. Donc du coup, on vend très bien là en ce moment.
Les concessions automobiles reprennent des couleurs, les ventes repartent à la hausse, dopées par les primes à la conversion du gouvernement.
Déjà 100 000 distribués, comme Europe 1 vous le révélait dès ce matin.
Les salariés d'Airbus dans l'angoisse, 5 000 postes supprimés en France. Les aides de l'État pourraient permettre d'en sauver une partie, confirme ce soir la direction du groupe.
Dans ce journal également, un service de police de Seine-Saint-Denis en partie dissous. Il est visé par une quinzaine d'enquêtes.
La parole se libère dans le sport. 2000 signalements de violences sexuelles présumées reçus au ministère des Sports.
Aujourd'hui, on voit toutes les 15 jours, 3 semaines, des nouvelles affaires qui sortent, des nouveaux témoignages.
La ministre Roxana Maraciné-Anouquet, votre invitée Nathalie, après le journal.
Et la situation qui se tend à nouveau à Hong Kong, vague d'arrestations après l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité.
Enfin, une famille juive spoliée pendant la guerre va pouvoir récupérer un tableau de Pissarro. Le couple américain qui en est aujourd'hui propriétaire va devoir le rendre.
Monsieur et Madame Toll sont mécontents car finalement ce sont eux qui doivent payer pour un crime commis par le régime de Vichy.
Et on va évidemment regarder la couleur du ciel puisqu'Anissa est à nos côtés. Bonsoir à vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien, c'est un temps très agité que je vous annonce, notamment pour les prochaines heures, avec 9 départements placés en vigilance orange aux orages. Des orages violents. En Rhône-Alpes, la nuit s'annonce très mouvementée. Demain, c'est gris avec des températures en baisse. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Entre 3 000 et 5 000 euros de prime pour changer de voiture. L'offre est séduisante. Cette prime à la conversion a été lancée par le gouvernement pour doper le marché automobile en crise. Et ça marche. Europe 1 vous révélait dès ce matin ce chiffre. 100 000 primes déjà utilisées, la moitié de ce qui est prévu. Et les ventes repartent à la hausse, plus 1,2% en juin. Vous l'avez constaté dans une concession de la région marseillaise, Stéphane Frangy.
Oui, et d'ailleurs, pas facile de trouver un vendeur disponible. Entre les visiteurs, les appels et les mails, beaucoup comme Lionel, qui est représentant chez BMW, sont débordés.
Dans la presse, les journaux où on entend que les garages ont besoin de déstocker, qu'il y a des offres incroyables et des affaires à faire, eh ben ça marche, les gens viennent. Donc du coup, on vend très bien là en ce moment. Ça sonne bien, on a des offres, des demandes d'offres par internet dans tous les sens, et effectivement, là, il faut avoir le temps de tout gérer, tout traiter en ce moment. Ouais.
Les différentes aides jouent pour beaucoup, ils l'observent depuis le déconfinement, et notamment sur certains modèles.
On a quand même pas mal d'aides aussi bien dans notre région du département et les aides gouvernementales sur les électriques. Donc pour déstocker, le constructeur nous aide, on cumule tout, ça fait des belles offres, en particulier tout, sur tout ce qui est électrique et hybride. Donc là, on a une forte demande sur ça en ce moment, c'est sûr et certain. Ouais.
Voilà, et cette hausse des ventes, on a pu nous le confirmer également chez Skoda ou encore chez Fiat, eh bien, elle est liée déjà à la période, puisque juin est généralement un bon mois pour les ventes, juste avant les grandes vacances. Et puis, il y a aussi un effet rattrapage des commandes qui sont restées en suspens durant le confinement.
Le reportage de Stéphane Frangy à Marseille. Et autre signe des temps, le constructeur de véhicules électriques Tesla est devenu aujourd'hui l'entreprise du secteur auto la plus chère en bourse, valorisée 207 milliards de dollars. C'est plus que Toyota.
On passe au secteur aéronautique maintenant. Et alors là, on change complètement parce que le rebond n'est pas attendu avant plusieurs années, le trafic aérien étant drastiquement réduit.
L'avionneur Airbus a donné hier soir l'ampleur du plan d'économie qu'il entend lancer. Réduction de 11% des effectifs, 15 000 emplois supprimés dans le monde, dont un tiers en France, 5 000 postes. À Toulouse, les salariés sont dans l'angoisse, mais le gouvernement affirme que les aides d'État devraient permettre d'en sauver une partie, ce que confirme ce soir le DRH du groupe Thierry Baril.
Si nous appliquons des solutions de chômage partiel longue durée, la fameuse APLD, au cours des prochains mois, dans un secteur type A320, c'est plutôt un millier d'emplois. Deuxièmement, notre gouvernement nous aide énormément sur des fonds qui nous permettent de développer des projets. Là, on pense que ça peut permettre de sauver environ 500 emplois. Donc, vous voyez, au moment où on se parle, on serait plutôt à 1500 postes en équivalent. Et encore une fois, c'est une estimation qu'à 2000. Mais je pense que chaque bonne volonté nous permettra de continuer d'avancer.
Propos recueillis par Benjamin Péter à Toulouse.
Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Et quels sont ces dispositifs qui peuvent permettre de sauver des emplois?
Alors vous avez aimé cet acronyme APLD, ça veut dire quoi? Activité partielle de longue durée, et cette activité partielle a été spécialement créée pour des secteurs justement comme l'aéronautique. L'idée est très simple, si l'entreprise connaît une forte baisse d'activité, c'est le cas chez Airbus, ils estiment que la production va être en recul de 40%, et bien l'entreprise peut réduire le temps de travail de ses salariés de 40%, là aussi. C'est-à-dire que le salarié va continuer à travailler, mais seulement à 60% de son temps. Bon, c'est assez logique, travailler moins, ça veut dire gagner moins. Et là, c'est l'État qui va venir compenser, selon les mêmes critères qu'aujourd'hui, la perte de salaire du salarié. C'est-à-dire que l'employé aura 84% de son salaire net. En échange, l'entreprise prend des engagements quand même, des engagements sur l'emploi, car tout cela, et c'est ça qui est très nouveau, c'est une négociation entre direction et syndicats, et cet accord peut aller jusqu'à 2 ans. Donc ça, c'est l'activité partielle de longue durée. Le gouvernement pour l'aéronautique a prévu également de créer un fonds d'investissement pour travailler notamment sur un avion du futur totalement propre, des fonds qui permettraient de financer la recherche, si l'on en croit Airbus, et donc, oui, de sauver des emplois.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, plus de 5000 emplois seront aussi supprimés en Allemagne, chez Airbus également, 1700 en Grande-Bretagne, où cette annonce est perçue comme dévastatrice.
Alors, moins d'avions, on l'a dit, moins de touristes, l'Europe qui tente de lancer sa saison estivale en rouvrant ses frontières extérieures à partir d'aujourd'hui.
Les ressortissants de 14 pays sont désormais autorisés à entrer dans l'espace Schengen, les Canadiens par exemple, les Japonais aussi, mais pas les Américains, en raison de l'ampleur de l'épidémie aux États-Unis. On va y revenir avec Didier François à 19h.
Défilé d'anciennes ministres de la Santé devant les députés. Après Agnès Buzyn hier, c'est Marisol Touraine qui est interrogée par la commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie.
Elle était en fonction sous le quinquennat Hollande, Marisol Touraine, et elle aussi rejette toute responsabilité sur les masques. Il n'y a pas eu de changement de doctrine entre 2012 et 2017, dit-elle, et elle avance ses chiffres, 730 millions de masques à son arrivée, et même un peu plus encore à son départ, 754 millions.
Il est 18h06 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Venons-en maintenant à ce service de police de Seine-Saint-Denis dans le viseur de l'IGPN. L'IGPN, c'est la police des polices.
La compagnie de sécurisation et d'intervention du 93 va être en partie dissoute. 6 de ses agents sont en garde à vue depuis lundi. Et ils ne sont pas les seuls dans le collimateur, Marion Dubreuil, puisque 17 enquêtes en tout sont ouvertes contre des policiers de ce service.
Et sans même attendre les résultats de ces enquêtes en cours, ouvertes pour violence, vol, PV falsifié ou bien encore trafic de stupéfiants, le préfet de police de Paris l'a annoncé. La CSI 93, près de 150 fonctionnaires, ne survivra pas à la tourmente judiciaire, en tout cas pas en l'état. La compagnie, dont la vocation était de renforcer la présence de la police dans les quartiers, de gérer les violences urbaines en première ligne dans la lutte anti-drogue, sera au moins partiellement dissoute. D'après nos informations, certains policiers seront rattachés aux différents commissariats du département. Les autres rejoindront la CSI 75, spécialisée dans le maintien de l'ordre à Paris. Pour ce qui est des policiers directement mis en cause, des sanctions administratives suivront les éventuelles condamnations, avec un premier procès à venir en novembre. Un policier poursuivi pour violence volontaire et faux en écriture publique. D'autres audiences pourraient suivre l'an prochain.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Et le parquet national financier lui aussi pointé du doigt pour ses méthodes d'enquête. On vous en parlait déjà en début de semaine.
Oui, avec ces questions, y a-t-il eu des pressions dans l'enquête visant François Fillon? Les magistrats étaient-ils dans les clous en épluchant les relevés téléphoniques de grands avocats dans l'affaire des écoutes téléphoniques liées à Nicolas Sarkozy? La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, demande une inspection. Les détails à venir dans le journal de 19h.
Et on va y revenir d'ailleurs avec les grandes voix à 18h30 dans ce studio.
La parole est-elle en train de se libérer sur les violences sexuelles dans le sport depuis le mois de janvier dernier et les accusations de la patineuse Sarah Abitbol, victime de viol pendant des années? Le ministère des Sports a créé une structure pour recueillir les témoignages.
Bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir.
Le ministère a déjà reçu 2000 signalements.
Oui, et des fédérations, des associations, encore les victimes elles-mêmes ont envoyé des courriels. Au total, 177 personnes présumées innocentes ont été mises en cause dans plusieurs affaires liées à des violences sexuelles. Pour la plupart, ce sont des éducateurs sportifs. À l'issue de ces premiers signalements, 16 personnes mises en cause ont été incarcérées. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que 98% des victimes étaient mineures à l'époque des faits. Le CNOSF, qui chapeaute l'ensemble des fédérations, a pris d'ores et déjà des mesures, comme l'a annoncé cet après-midi son président Denis Masseglia.
64 fédérations ont désigné leurs correspondants en lutte contre les violences sexuelles et c'est important de montrer sur les 90 membres du CNOSF que les deux tiers avaient déjà fait en sorte de désigner la personne qui sera celle à laquelle chacun pourra s'adresser.
La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, souhaite par ailleurs renforcer le contrôle des casiers judiciaires des encadrants et bénévoles, mais aussi développer des outils de sensibilisation, par exemple poser des affichettes à l'entrée des stades et mettre en place des formations spécifiques.
Ouais, merci les précisions de Cyril de la Morinerie du service des Sports d'Europe 1.
Quant à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, elle est mon invitée juste après le journal, dans moins de 10 minutes maintenant.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition, Hong Kong, la loi contre les opposants durcit, on vous en parlait hier, 180 arrestations.
Et puis la justice française oblige des collectionneurs américains à restituer un tableau de Pissarro à une famille juive française spoliée pendant la guerre.
Europe 1.
18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et la situation qui se retend pour être exact à Hong Kong, nouvelle vague de manifestations la nuit dernière.
Et cela après l'adoption d'une loi sur la sécurité qui durcit les sanctions contre les opposants, Jean-Sébastien Soldaini. Les autorités d'ailleurs n'ont pas tardé à l'appliquer puisqu'une première série d'arrestations a eu lieu.
Oui, moins de 24 heures après la promulgation du texte, 9 personnes interpellées pour violation de cette loi. En plus des 300 autres manifestants arrêtés, encore une journée de mobilisation extrêmement tendue avec usage de canons à eau et de gaz poivré par la police face à des citoyens hongkongais qui scandent des slogans en faveur de l'indépendance du territoire, car cette loi accentue encore la pression, pour ne pas dire la mainmise de Pékin sur Hong Kong. Elle réprime 4 types de crimes contre la sécurité de l'État: subversion, séparatisme, terrorisme et collusion avec les forces extérieures. Dans certains cas, c'est même la justice chinoise qui peut se déclarer compétente, pas les tribunaux de Hong Kong. Quant aux peines encourues, ce peut être jusqu'à la prison à vie. Ce sont de nouveaux arguments pour ceux qui considèrent que le régime un pays de système est totalement en train de disparaître plus vite que prévu, car Hong Kong n'est censé intégrer le droit commun chinois qu'en 2047.
Le récit de Jean-Sébastien Soldaini.
Voici à présent la fin d'une longue bataille judiciaire autour d'un tableau du peintre impressionniste Camille Pissarro.
La Cour de cassation a validé aujourd'hui définitivement la décision de la justice française. Un couple de collectionneurs américains va devoir rendre cette œuvre aux descendants d'une famille française juive qui avait été spoliée pendant la guerre. Et cela, Théo Manval, alors même que ce couple américain avait acheté ce tableau en toute bonne foi.
Oui, la cueillette des pois avec ses touches de peinture bleu-vert, ses cueilleuses penchées sur leur panier en osier, va donc retrouver ses propriétaires historiques. Et puis là, vous le disiez, d'une histoire qui remonte à 1943, le gouvernement de Vichy confisque les tableaux détenus par Simon Bauer, collectionneur juif bientôt déporté. La cueillette des pois est revendue sous le manteau, puis exportée vers New York avec toutes les autorisations officielles. En 1995, Bruce Toll, riche homme d'affaires américain, se l'offre aux enchères chez Christie's sans se douter de rien. C'est lorsqu'il la prête au musée Marmottan il y a 3 ans à Paris que le petit-fils de la famille Bauer tombe sur ce tableau. Il entame alors une bataille judiciaire pour sa restitution et gagne en première instance puis en appel, car une ordonnance de 1945 annule tous les actes officiels pour les biens spoliés pendant la guerre. La Cour de cassation vient donc de le confirmer. Le couple Toll doit bien rendre ce tableau, sans rancune ou presque, explique leur avocat, maître Ron Soffer.
Monsieur et Madame Toll ne sont pas mécontents du fait que la famille Bauer puisse retrouver le tableau. Ils sont mécontents car finalement ce sont eux qui doivent payer pour un crime commis par le régime de Vichy. Ils ont porté cette affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, car ça a été acheté en 1995, toute bonne foi, pour 800 000 $. Donc c'est l'État qui devrait indemniser les Toll pour la valeur de ce tableau.
Voilà, un tableau à 800 000 $ jusqu'ici mis sous séquestre au musée d'Orsay et que la famille Bauer peut désormais récupérer.
Théo Manval pour Europe 1.
Une histoire qu'on suivra bien sûr. Merci beaucoup Sébastien. Tout à l'heure, 18h30, Anissa, on lève la tête et on se dit qu'il y a des prochaines heures à surveiller avec des départements en vigilance. Hein.
Oui, effectivement Nathalie, 9 départements placés en vigilance orange aux orages violents jusqu'à la fin de la nuit prochaine. Il s'agit de l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Saône-et-Loire, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire. Effectivement, dans cette région Rhône-Alpes, les orages vont beaucoup éclater cette nuit. Il y aura une forte intensité électrique avec de la grêle et du vent jusqu'à 90 km/h. Donc grande prudence si vous nous écoutez dans ce secteur aujourd'hui. Alors demain matin, c'est encore très mitigé avec dans le sud-ouest un ciel couvert. Sur les Pyrénées, il pleut dès le lever du jour. De l'Auvergne aux Alpes, dans la région Rhône-Alpes, le ciel est couvert demain matin avec encore des orages dans la matinée. Sur le pourtour méditerranéen, le ciel va légèrement se couvrir dans l'après-midi, avec d'ailleurs sur le Languedoc quelques gouttes dans l'après-midi. Puis dans le nord-ouest, le ciel là aussi est chargé avec des gouttes. J'essaye de vous faire tout le tour de la France rapidement. Dans le nord-est, des petites averses encore tout au long de l'après-midi. Il n'y a finalement qu'au bord de la Méditerranée qu'il fera beau demain. Les températures, 9 à 14 en général dans la matinée, puis dans l'après-midi, vous allez le constater, ça baisse avec 17 à 23 sur la moitié nord du pays, 19 à Brest, 19 à Bordeaux, 23 à Paris, 24 à 27 dans le sud avec 24 à Toulouse, 25 à Clermont-Ferrand, 28 à Lyon. Il fait très très chaud dans l'extrême sud avec 30 à Toulon, 32 à Marseille et jusqu'à 34 à Nîmes.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie.
Oui, près de 180 personnes mises en cause dans des affaires présumées de violences sexuelles dans le sport et 40 fédérations concernées. Les chiffres ont été annoncés par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et mon invité dans moins de 2 minutes sur Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Depuis les révélations de l'ex-patineuse Sarah Abitbol, une structure a été créée au ministère des Sports pour centraliser et traquer les violences sexuelles. Vous recevez à présent la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Bonsoir madame Roxana Maracineanu.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir à mon micro sur Europe 1. Vous aviez déclaré concernant les violences sexuelles dans le sport, je ne mesurais ni la gravité des cas, ni leur nombre. Combien de signalements avez-vous reçus à ce jour ?
Eh bien maintenant, à ce point d'étape, depuis la convention du 21 février dernier, nous pouvons donner des chiffres et mesurer effectivement l'ampleur du phénomène puisque près de 2000 mails nous sont arrivés au ministère des Sports avec 177 agresseurs présumés mis en cause dans des agressions sexuelles perpétrées dans le monde du sport. Parmi ces 177 cas, aujourd'hui, nous avons pu prononcer 70 mesures. Alors, elles visent à écarter les agresseurs des jeunes enfants. Un tiers d'entre elles, donc 26 mesures, vont éviter la récidive, puisqu'elles ont procédé de signalements faits ou alors simplement d'établissement de la carte professionnelle qui permet dans ce métier d'éducateur sportif d'aller regarder le fichier FIGES, donc le fichier où sont inscrits les condamnations sexuelles des personnes. Et nous avons pu ainsi croiser les fichiers et proposer ce qu'on appelle des notifications d'incapacité à ces personnes. 26 d'entre elles ont été écartées grâce à cette mesure.
Alors, on va y revenir dans le détail dans un petit instant. Mais d'abord, cette question, est-ce que vous imaginiez un tel phénomène, de telle violence pratiquement quotidienne ?
Bah écoutez, quand je suis arrivée au ministère des Sports en 2018, je portais cette volonté de rentrer dans la formation des éducateurs sportifs pour leur parler simplement des méthodes d'enseignement, de la pédagogie qu'ils adoptaient vis-à-vis des enfants et des jeunes, que parfois je trouvais décalée par rapport à ce qui se fait dans le cadre de l'école ou tout simplement de la société. Et je voulais qu'on aille plus loin dans ces formations. Et derrière tout ça, finalement, il y a eu un phénomène que je ne mesurais pas et qui est sorti grâce aux médias, grâce aux témoignages aussi des victimes qui nous ont montré que ces cas, j'allais dire, de violences verbales qu'on pouvait voir dans le sport, parfois cacher des déviances bien plus graves et des dérives bien plus graves, et notamment des dérives sexuelles.
Alors à ce stade, avec tout ce qui a été fait, avec tout ce que vous avez découvert, on peut dire officiellement que l'omerta dans le sport, c'est fini, madame la ministre ?
Bien sûr, moi je suis fière que le sport puisse participer à la protection de l'enfance, à cette cause auquel notre gouvernement et le président de la République est très attaché. Et grâce au sport, nous pourrons aussi aller dans un phénomène d'éducation au rapport au corps des enfants, leur parler de cette thématique dans ce tiers lieu que peut être l'association sportive, aider aussi à libérer la parole sur ce qui se passe peut-être dans le sport, mais peut-être aussi dans la famille, peut-être voilà, à l'école, dans la société, et pouvoir faire en sorte que ce lieu où le corps est en jeu, où il y a du contact entre des adultes et des enfants, du contact tactile parfois, eh bien, on le protège, on le sanctuarise et qu'on fasse attention par de la formation des éducateurs, de la sensibilisation des parents, des bénévoles et surtout par du contrôle renforcé du passé des éducateurs, du passé des bénévoles aussi, qu'on puisse proposer aux familles et aux enfants de faire du sport en toute sécurité.
Madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait pas, dans certains cas, des personnes suspectées ne soient pas écartées ? Comment on peut l'assurer aux familles, aux enfants ?
C'est la priorité que je me suis donnée. Aujourd'hui, la cellule ministérielle de signalement qui travaille depuis décembre dernier, depuis les affaires de Disclose, révélées par Disclose, gère effectivement cette coordination entre les acteurs, les fédérations, nos services déconcentrés où les signalements arrivent sur les territoires et l'administration centrale. À cette cellule, nous voudrons associer prochainement les collectivités, les mairies, les adjoints au sport dans les mairies, pour qu'on puisse, par tous les biais, par tous les axes, en fait, être en capacité finalement de contrôler et d'agir sur ces associations qui peuvent investir des équipements sportifs mis à disposition par les municipalités. Et il faut que les mairies soient aussi conscientes de ce qui s'y passe dans ces associations. Et il faut aussi que les fédérations soient responsables de ce qui se passe dans leurs associations. Et nous, ministère des Sports, qu'on soit là pour agir. Et agir, ça veut dire signaler systématiquement à la justice, vérifier que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Et puis derrière, nous prendre des mesures administratives et derrière fédérales pour qu'on puisse écarter ces adultes, quand il le faut, du contact avec les enfants.
Roxana Maracineanu, avez-vous eu des surprises parmi les victimes, des profils inattendus ou des sports sur lesquels on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse y avoir ce type de dérive ? Et lesquels ?
Écoutez, parmi les 177 cas signalés, il y a toutes les fédérations. Aujourd'hui, 40 fédérations sont touchées, très diverses, des sports anciens, plus nouveaux, plus modernes, et puis une diversité dans les pratiques, avec un niveau d'engagement, j'allais dire, des présidents de fédération qui peut varier et qui peut être interprété d'ailleurs de manière problématique, parce que quand on va avoir un grand chiffre dans certaines fédérations, c'est aussi l'engagement de la transparence qu'il faut y lire. Et puis, parfois, quand il n'y a aucun chiffre qui ressort d'une fédération, c'est aussi peut-être parce que la fédération n'est pas engagée à libérer la parole. Donc, comme pour moi, dans toutes les thématiques de violence, de discrimination qu'on peut lire dans le sport, eh bien, ce n'est pas dans le sport que ça se passe, mais c'est le miroir de la société, comme partout dans la société. Et on sait que ce cas est très grave dans la société, les violences faites aux enfants et les violences sexuelles en particulier. Il faut que le sport participe à cet effort collectif de libération de la parole.
Encore deux questions rapides, Madame Maracineanu. Le 12 juin dernier, on s'en souvient, Didier Gayagué a annoncé qu'il a attaqué le ministère des Sports en justice pour avoir fait pression pour le contraindre à la démission en février dernier. On se souvient très bien de cette affaire, la Fédération des Sports de Glace en l'occurrence. Est-ce que vous craignez de nouvelles oppositions de la part de différents dirigeants, de fédérations dans la lutte contre les violences dans le sport ?
Écoutez, moi je tiens à féliciter Didier Gayagué d'avoir pris ses responsabilités, d'avoir démissionné de la tête d'une fédération.
Vous le félicitez aujourd'hui ?
Qui est aujourd'hui, c'est lui qui a démissionné, donc effectivement d'avoir pris ses responsabilités. Aujourd'hui, les personnes mises en cause, effectivement, aujourd'hui auront à répondre de leurs actes, et je parle là des agresseurs présumés bien sûr. Dans cette fédération des sports de glace, nous sommes en train de travailler avec l'inspection générale, le rapport ne m'a pas été encore remis, mais l'objet de cette inspection générale, c'est effectivement de définir les responsabilités des personnes en place, et de voir aujourd'hui d'établir le niveau de connaissance des dirigeants de la fédération dans les nombreuses affaires qui la concernent.
On est à la veille d'un remaniement. Est-ce que vous avez rempli, selon vous, vos objectifs ? Évidemment, selon vous et votre mission en tant que ministre des Sports, on sait qu'un certain nombre de noms circulent et qu'il va y avoir évidemment un jeu de chaises musicales.
Sur cette thématique qui me tient très à cœur, la prévention des violences et la protection des publics, je crois que le travail est engagé. Il n'y a plus de retour en arrière possible aujourd'hui. N'importe qui suivra après moi, ou si c'est moi qui continue le travail, je pense que c'est une thématique qui restera et qui est importante. J'ai fait part au président de la République des deux engagements que je voulais aujourd'hui pour le ministère des Sports dans les deux prochaines années. C'est le sport au plus près de nos jeunes enfants, dès la maternelle, à l'école primaire, là où il n'y a pas aujourd'hui de professeurs d'éducation physique et sportive. Je crois que nous avons tous une responsabilité pour construire la génération de demain, capable de faire face à cette génération des écrans, à cette génération qui risque d'être soumise à des épidémies comme celle qu'on a connue récemment. Et le sport santé, bon à l'activité physique, bonne pour la santé de nos concitoyens, quel que soit leur âge, c'est un élément important dans lequel je compte bien jouer un rôle.
Donc vous avez dressé votre bilan, vous avez envie de continuer au ministère des Sports.
Et mes orientations pour les deux prochaines années.
Merci beaucoup, Madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, d'avoir répondu à mes questions sur Europe 1.
Merci.
Europe 1. Votre grand journal du soir avec vous Nathalie Lévy et la suite du programme.
La suite du programme, c'est évidemment l'info avec Sébastien Rabes dans quelques secondes et le rappel des titres de 18h30. Mais les grandes voix surtout qui arrivent, qui s'installent et on est ensemble après jusqu'à 19h.
Europe 1. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et avec les grandes voix qui vous entourent jusqu'à 19h ce soir, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue dans ce
Bonsoir.
Studio. Alors on a écouté attentivement Agnès Buzyn défendre sa gestion de la crise due au Covid-19 hier devant les députés. Aujourd'hui c'est au tour de Marisol Touraine d'ailleurs d'être interrogée par la commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie. Gérard Carrérou, vous avez été très attentif, évidemment, hier. Et comment vous avez trouvé, d'abord, l'ex-ministre de la Santé, ensuite candidate au municipal ?
Comment je l'ai trouvé ? Écoutez, je l'ai trouvé par certains côtés, par certains moments. J'ai dit, elle est pathétique, j'étais un peu attristé de voir une femme comme ça. Et puis à d'autres moments, elle était patouilleuse. Alors là, patouilleuse, c'est-à-dire qu'elle cherchait les réponses, un truc. Alors il y avait l'ancien...
Il y avait la patouilleuse,
et la troisième, et je dirais, est culottée pour une femme. Culottée. Quelle assurance. Quand je dis culottée, je pense notamment à ça. Quel aplomb pour dire, pour oser dire... Quand je pars le 16 février, quand je pars donc de mon ministère pour d'autres épreuves, pour aller à la campagne électorale, eh bien, tout était prêt. Mais alors là, j'étais assis, j'ai failli tomber de la chaise, parce que vraiment, je trouve qu'il faut être effectivement gonflé pour dire ça. Bon, voilà.
Elle a estimé avoir anticipé.
Oui,
elle s'est défendue.
Elle a tout vu, elle a tout fait.
Voilà.
Comme disait,
mais elle a peiné à convaincre.
Oui, comme disait Roger Vaillant, un écrivain de grand talent, elle a tout vu, tout fait. Le ciel lui est même tombé sur la tête dans un bordel de Tombouctou. C'est une phrase que j'ai beaucoup aimée. Non, mais c'est une phrase de Roger Vaillant dans un de ses livres pour dire que quelqu'un qui invente, qui dit qu'il a tout fait, j'ai tout vu, tout fait. Ben, c'était un peu ça. Voilà.
Donc vous mettez un peu sa gestion de la crise à peu près sur le même plan que sa campagne pour Paris. Hein. J'imagine en tout cas. Catherine.
Moi, quand j'ai écouté, j'étais assez étonnée et je dirais que je commence par le culot. Parce qu'elle dit, je suis la ministre de la Santé qui a parlé la première. C'était avant l'OMS. Elle dit avoir tout compris par avance, d'avoir travaillé des réunions quelquefois à 7h du matin, à 8h pour voir les choses. Mais ça ne... Les réunionnites, d'ailleurs, qui n'aboutissaient à rien parce qu'il n'y a pas eu... Il y a eu une commande de masques, mais pas suffisante. Elle avait saisi les choses. Elle croyait que... Elle dit, nous avons même... Écoutez, elle dit, nous sommes le premier pays à avoir fait des tests déjà disponibles à Paris et à Lyon. Non, mais comment on peut ça? Alors que vraiment...
On va ensuite la suite.
Donc, elle a un sacré culot. Mais moi, ce qui m'étonnait chez cette femme, c'est lorsqu'elle a annoncé ce fameux dimanche 16 février qu'elle allait quitter le ministère et qu'elle passait le pouvoir à Olivier Véran, c'est qu'elle était en larmes. Et moi, je m'étais dit, mais si elle y va à contre-cœur, eh bien, pas du tout. Donc, je me suis demandé pourquoi elle pleurait. Parce qu'elle dit, elle l'a dit d'ailleurs dans le papier qu'elle a à Ariane Chemin,
oui,
elle dit,
le papier
ni Emmanuel Macron,
revient,
ni Édouard Philippe ne m'ont mis la pression, mais je recevais des milliers de textos me disant, il n'y a que toi. Je me suis dit que je n'allais pas laisser La République en marche dans les difficultés. Paris est un beau mandat. J'ai appelé moi-même le président pour lui dire que j'y allais. Donc c'est elle qui a voulu y aller. Et hier, elle s'étonnait encore. Elle dit, ben oui, je croyais, c'était bien. Puis c'était dans mes cordes parce que la santé, c'est important pour la mairie de Paris. Et voilà. Mais vous avez remarqué, ça n'a pas eu lieu.
Alors,
donc elle est à la fois, moi je pense que comme ministre, elle dit qu'elle a tout vu, mais il ne s'est rien passé. Et elle a surtout révélé qu'elle n'était pas une grande politique. Voilà, elle s'est bercée d'illusions.
Vous n'êtes clairement pas convaincu. On va voir ce qu'en dit Charles. Elle a persuadé personne. Hein. Elle est loin, en tout cas, d'avoir persuadé qui que ce soit hier durant cette commission. Et vous, Charles Villeneuve ?
Moi, je me suis intéressé, si vous voulez, j'ai téléphoné à 3 des membres de la commission d'enquête cet après-midi. Bon, je leur ai demandé leur opinion. Elles ne sont pas éloignées des 2 qu'on vient d'entendre. Donc, je ne me suis pas tellement intéressé à ça, puisque je savais, en gros... que sa prestation n'avait pas convaincu, donc je n'allais pas en remettre. Bon, je me suis intéressé à la disparition des stocks de masques. Bon.
Question qui est posée aussi à Marisol Touraine aujourd'hui.
Bon, et il y a des documents qui ont été versés à la commission d'enquête qui sont très intéressants. En 2010, le stock stratégique d'État de masques était d'1,7 milliard de masques. En 2012, quand Nicolas Sarkozy quitte le pouvoir, il reste 1,4 milliard de masques. En 2017, quand François Hollande, à son tour, quitte l'Élysée, il y a 750 millions de masques qui sont encore stockés. Ouais. En 2020, lorsqu'il est établi que le coronavirus va déferler sur la France, une commission d'experts présidée par le professeur Stahl de Grenoble dit à Public Santé France qu'il faut 1 milliard de masques pour protéger la population et qu'il faut à tout prix se les procurer. 1 milliard de masques. Et Public Santé France transmet ce document, cette lettre, à la Direction générale de la santé du professeur Salomon. Or, le 30 janvier 2020, toujours, le professeur Salomon dit devant la commission qu'il ne restait que 117 millions de masques de, de ces 735 millions laissés.
Au moins ceux-là, ceux laissés par François Hollande et sa ministre Marisol Touraine.
635 millions de masques. Où sont-ils passés? Ils étaient, paraît-il, détériorés. Oui. Certains ont été détruits. Ça n'est pas prouvé. Ça n'est absolument pas prouvé. On ne sait pas. Bon. Agnès est ministre. Agnès Buzyn est ministre. On peut comprendre que les masques ne sont pas de son ressort, si vous voulez. C'est vrai que c'est pas. Elle dit simplement qu'elle a fait une demande le 30 janvier d'un million de masques et elle a découvert qu'évidemment les Chinois, puisque c'est eux qui les fabriquaient, ne pouvaient pas fournir. Ouais. Mais la fameuse lettre du professeur Stahl envoyée à Public Santé France, eh ben, elle aussi a disparu, comme les masques. C'est envolé. Ouais. La commission d'enquête, en tout cas, n'a pas pu la récupérer en l'état.
Donc, interrogation qui persiste.
C'était le moment où la France, sûr, avec d'autres pays européens, envoyait des masques à la Chine.
À la Chine. Donc, voilà. Donc, les interrogations qui persistent sur le contrôle de ces stocks, qu'est-ce qu'il en a été? Pas au courant, a-t-elle dit, des masques périmés non plus? On va y revenir sur toutes ces questions, évidemment, avec vous, les grandes voix, jusqu'à 19h.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy et les grandes voix, Catherine Ney, Gérard Carrero et Charles Villeneuve.
Oui, on s'interrogeait évidemment sur le résultat de cette audience par Agnès Buzyn, évidemment, qui s'est défendue, l'ancienne ministre de la Santé, hier, y compris sur les stocks de masques, avec des questions qui restent clairement en suspens. Elle disait ne pas être au courant des masques périmés, l'interrogation, parce qu'elle disait aussi ne pas, elle, gérer le contrôle des masques. Marisol Touraine, désormais entendue. Roselyne Bachelot va l'être aussi, Gérard Carrero. On aura des réponses.
Il y a quelque chose, au-delà du témoignage et des réponses de Mme Buzyn, il y a quelque chose qui suintait à travers ces 4 heures d'audition. C'est une impression générale de désorganisation, quelque chose, un univers kafkaïen, où on ne sait pas qui était le patron de telle ou telle par rapport à telle ou telle responsabilité. C'est vrai pour les masques, c'est vrai pour les tests, c'est vrai pour tout. Alors, entre les agences régionales de santé et les hauts fonctionnaires divers et variés de tous les groupes organisés, on se dit qu'on a eu une chance extraordinaire et magnifique qui est que, quelque part, à un moment donné, les soignants ont à peu près pris les rênes et pris le pouvoir, au moins dans les hôpitaux. Et c'est eux qui ont organisé, c'est eux qui ont poussé les murs, on l'a dit, c'est une expression, mais c'est presque vrai. Ils ont fait là où il n'y avait plus de place, ils ont fait des lits, ils ont fait tout le truc. S'il n'y avait pas eu l'extraordinaire, c'est sûrement pas l'administration générale de la santé qui nous aurait permis d'affronter le...
Alors je crois que l'enquête va montrer, la commission d'enquête va montrer, de toute façon, qu'il y a plusieurs étages, si vous voulez, parce que c'est incroyable, c'est un peu, vous savez, ces commodes comme ça, où il y a plein de petites boîtes, des petits tiroirs qu'on tire et on trouve un tas de choses là-dedans. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ajouterai à ce que vient de faire remarquer Gérard, qu'il y a eu en effet les soignants et qu'il y a eu l'initiative des maires qui se sont démultipliés pour les avoir. Et les maires ont finalement, si vous voulez, fourni à la population des masques suffisants qu'ils ont achetés eux-mêmes, quand la douane ne les bloquait pas, justement, au profit, et il faut le dire, et ça, c'était pas simplement pour le sport de les bloquer ou la mauvaise intention, c'était aussi pour récupérer des FPP2, c'est-à-dire les masques les plus efficaces pour les soignants. Mais tous les autres sont passés. Et d'ailleurs, dans certaines mairies, c'était assez extraordinaire de voir qu'ils achetaient près de 50, 60, 70 litres d'alcool. Et qu'ils les installaient dans des petites bonbonnes sur des murs, etc., ou sur des arbres, pour que la population puisse s'en servir.
Mais surtout les régions qui ont commandé des masques, comme l'Île-de-France, ou les différentes régions, la région du Nord, des Hauts-de-France, c'est parce qu'aussi, quand ils accompagnaient leurs commandes, d'un paiement cash. Tandis que l'État paye, on appelle ça paye à 6 mois, à 3 mois. Donc, quand on fait une grosse commande...
Pas que l'État, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises aussi.
Oui, mais enfin, quand tout le monde est demandé à la Chine, mais quand un État arrivait avec des valises pleines de dollars, mais c'est sûr que le marché filait sous le nez, quoi. Donc, c'était pas la meilleure méthode. Quand on commande, on paye.
Est-ce qu'on doit s'attendre à un règlement de compte entre ministres, là, parce qu'il y a encore les auditions? Marisol Touraine, on le disait, Roselyne Bachelot, qui s'est défendue bec et ongle pendant cette crise, parce que que on se souvient.
Parce que critiquer.
Voilà, parce que critiquer férocement, évidemment.
Oui. Non, mais je ne crois pas qu'elles vont s'attaquer l'une l'autre. Ouais. Parce que ce sont les trois femmes, sont quand même des femmes tout à fait respectables. Oui. Bon, elles ont pu avoir les unes ou les autres à certains moments qu'elles faire des erreurs, mais elles ne vont pas, à mon avis, se crêper le chignon, ça je crois pas.
Oui.
Et ça serait pas digne, ça serait pas digne.
Vous savez, les politiques anciens ou actuels, c'est comme les juges, ils se couvrent les uns les autres.
Oui. Oui, mais surtout, Roselyne Bachelot, elle a été encensée, elle est allée sur tous les plateaux, on la trouve formidable. Alors maintenant, je veux dire, elle a cette auréole, elle ne va pas s'abaisser à fustiger celles qui ont moins bien réussi qu'elle, qui n'ont pas été aussi clairvoyantes qu'elle.
Il reste quand même, Catherine, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que quand même, l'idée de faire le premier tour des élections et de demander à Mme Buzyn de partir du ministère...
Ne dis pas, on n'a pas demandé à Mme Buzyn de partir, c'est elle. Bien sûr, il y avait des sollicitations
du parti
Gilles Lejeune voulait qu'elle se présente et la poussait parce qu'il cherchait.
Non, mais le résultat est le même. Je trouve que c'était une erreur fondamentale quand on est au milieu d'une crise.
On le voit aujourd'hui.
Mais moi, je trouve ça très choquant. C'est très choquant qu'elle soit partie, mais elle dit comme ça, elle est mal.
Quelle que soit la responsabilité.
Oui. Moi, je trouve que c'est elle qui porte la responsabilité de sa venue à Paris. Elle s'est portée candidate. C'est
assumé,
ni Macron, ni Édouard Philippe qui leur lui ont demandé.
En tout cas,
elle a dit le dimanche, je démissionne. On a dit très bien.
Je quitte le ministère parce qu'il y a un contexte politique à ce moment-là que je pense qu'il faut à un moment se présenter devant les électeurs. J'ai aussi le sentiment qu'un maire a un rôle majeur à jouer dans cette crise.
C'est ce qu'elle pouvait être élu, parce qu'il y avait des tweets qui disaient « il n'y a que toi pour être élu ».
Moi, je voudrais revenir sur justement...
D'un mot, juste après
d'un mot, si vous voulez, après.
Oui. Mais allez, à tout de suite, c'est Charles et les grandes voix.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec les grandes voix jusqu'à 19h, Catherine Négérard, Carrero et Charles Villeneuve.
Et l'actualité qu'on avait envie évidemment de développer avec vous, les grandes voix, ce soir, parce que on voit bien qu'il y a des situations de plus en plus tendues quand on parle de la police. Là, c'est cette affaire, ce service de police de Seine-Saint-Denis dans le viseur de l'IGPN. La police des polices, cette compagnie de sécurisation et d'intervention, va être en partie dissoute. 6 de ses agents sont en garde à vue depuis lundi. Ils ne sont pas les seuls dans le collimateur. Ça commence à faire beaucoup d'affaires où de la police est citée et mise en cause, avec peut-être ça jette en tout cas de doute.
C'est de l'amalgame.
C'est une affaire tout à fait différente.
Mais complètement.
C'est de l'amalgame de dire ça. Excusez-moi.
Parce que
vous accréditez l'idée, effectivement. Si on dit il y a des ripoux dans la police et qu'on les dénonce, etc., je dis c'est très bien.
Et que
bravo.
L'IGPN fait son travail.
Mais de commencer à dire oh, regardez les flics, alors à la fois ils sont racistes, à la fois ils font ceci, et maintenant ils sont en même temps délinquants et ripoux, c'est donner de l'eau au moulin de cette campagne virulente montée par l'extrême gauche et un certain nombre d'associations aujourd'hui contre la police et contre les forces de sécurité.
Il faudrait quand même déjà dire à peu près ce qu'on leur reproche déjà. Bon, c'est une affaire qui tombe mal, ça c'est vrai,
c'est
pour la police,
c'est sous le feu des critiques depuis plus.
Mais
c'est
ça montre aussi la volonté de l'institution de faire le ménage à fond. Et ça montre enfin, si vous voulez, il n'y a qu'à regarder les 17 ouvertures d'information du parquet. C'est quand même, moi, en tout cas, je tombe des nues devant le nombre de policiers impliqués et on est stupéfait par le chapelet d'infractions qui sont reprochées à ces policiers. Violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Faux et usage de faux. Investigation qui continue, notamment parce que il est bien évident qu'ils ont profité, c'est du racket pur, ils ont profité de l'argent, vous savez que l'argent du trafic de stupéfiants dans les quartiers sensibles, c'est de l'argent cash. Bon, ils se servent sur cet argent cash et même ils montent des affaires, ça s'appelle monter un chantier en termes policiers. On monte un chantier pour écarter un certain nombre de dealers, qu'on écarte des quartiers où ils font leur racket par rapport à la vente, évidemment, des doses de cocaïne ou de hashish, etc. Et c'est ça qu'on leur reproche. Et on le voit d'ailleurs très, très bien dans les séries, qu'elles soient françaises, comme Braco, par exemple, sur Canal+, ou dans les séries américaines, où les policiers qui sont chargés trop longtemps, souvent, de lutter contre le trafic de stupéfiants, finissent par se servir de cet argent cash.
Mais c'est un nouveau coup dur, Catherine Ney, un nouveau coup dur, clairement, pour l'image de la police, cette succession.
C'est un nouveau coup dur, mais ce qui est rassurant, c'est que ces ripoux vont être sanctionnés.
Action, réaction, voilà, très vite, il n'y a pas eu de perte de temps.
Et que les policiers, la police aura fait le ménage. Voyez, moi, je trouve que j'aime mieux ça que, voyez, il y a un avocat spécialisé qui est délégué aux perquisitions auprès du bâtonnier. Bon, et qui est là a été Madame Champrenaud, la présidente,
la procureure générale de Paris,
s'est emparée du dossier parce que pendant les perquisitions, Monsieur Nioret a plusieurs fois dénoncé avec virulence quand ça se passait les méthodes du juge Tournaire. Ouais. Et mais là, quelquefois, houspillé. Et d'ailleurs, une fois, il a tellement choqué. Et en arrivant comme ça, en tapant à 6h du matin pour faire un tête, qu'un homme a une crise d'épilepsie, a failli mourir sous ses yeux. Bon, eh bien, Madame Champrenaud s'empare du dossier, demande officiellement à la bâtonnière de démettre Vincent Nioret, comme si elle devait choisir elle-même les avocats qui choisissent les... Voyez. Donc ça, il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que les juges peuvent faire n'importe quoi. Ils ne sont jamais dénoncés, mais un avocat qui surveille les perquisitions et qui dit « là, ce n'est pas possible, vous allez trop loin », c'est lui qui est sanctionné. C'est ça qui n'est pas normal. Il y a d'un coup les policiers, c'est vrai qu'ils sont sanctionnés.
C'est
quand
l'omnipotence c'est des juges.
Voilà.
Oui.
Et donc ça, moi, parce je trouve faut, que c'est très dire, intéressant.
Il faut dire qui est le juge Tournaire, c'est un juge d'instruction du parquet national financier qui instruit notamment toutes les affaires Sarkozy.
Dès que ça touche à Sarkozy,
voilà.
Et Fillon.
Il est parti. Il n'est plus juge d'instruction.
Gérard.
Oui, non, je ne sais plus ce que je voulais dire, ça ne fait rien, je retrouverai demain mes... Non, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Bon, sur cette affaire de la police, sur cette affaire de 6 policiers en Seine-Saint-Denis placés en garde à vue, on a un auditeur, normalement. Mouna ?
Oui.
Ah, oui, c'est ça. Bonsoir à vous, bienvenue Mouna, qui nous appelle de Paris, bienvenue. Votre question ?
Alors, c'est pas la première fois que des policiers sont mêlés à ce genre d'affaires dans le 93 ou le nord de Paris. Et jusqu'à présent, les réponses administratives et pénales ont été particulièrement légères. Mais récemment, j'ai vu quelques officiers de la BAC être déférés et dans le 18e arrondissement pour des affaires de raquettes, enfin des affaires similaires. Et j'ai eu l'impression que les choses étaient prises un peu plus au sérieux. Alors, est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'il y a vraiment eu un revirement ?
Non, c'est pas un revirement, si vous voulez. Là, il faut pas. Si on revient, si vous voulez, sur les faits, c'est le chef de la compagnie de sécurité, la CSI 93,
la compagnie de sécurisation et d'intervention,
qui lui-même a trouvé le comportement de ses gardiens de la paix, notamment, qui agissent en civil, en général, dans la lutte contre les stupéfiants, curieux, invraisemblables, etc. Bon, alors, il les a dénoncés, en tout cas, il a attiré l'attention de l'IGPN, et l'IGPN a instruit cette affaire, a enquêté plutôt qu'instruit, a enquêté, et elle a établi les faits. Et dès lors que les faits sont établis, en général, si vous voulez, ça va jusqu'au bout, sur le plan pénal, bien sûr. Donc, voilà. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est plus sévère qu'avant ? Ça l'est depuis un certain temps, pas de manière, si vous voulez, par rapport à toutes les affaires qui nous préoccupaient, auxquelles nous avons fait allusion. Ça l'est depuis, je dirais, 4 ou 5 ans, notamment sur les stupéfiants.
Voilà la réponse à la question de Mouna, de Charles Villeneuve. Merci beaucoup. On va s'arrêter là sur ce sujet. On va se retrouver demain, ici même, les grandes voix, 18h30, 19h. On parlera peut-être du remaniement. On entend différentes dates. On entend différentes choses.
La semaine prochaine, peut-être.
Alors voilà. Et puis, on verra si, effectivement, ça se passe ce week-end ou la semaine prochaine. Mais évidemment, vous serez là pour commenter. Merci, les grandes voix.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, à suivre.
Avec Sébastien Krebs, évidemment, l'info, et la ministre de la Justice qui ouvre cette inspection sur le parquet national financier après cette nouvelle affaire des écoutes.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et la suite du programme.
Alors la suite, après 19h, vous le savez, on regarde vers demain avec le coup d'envoi des vacances et des grands départs, avec cette inquiétude qui plane aussi, celle d'une réapparition du virus et de l'émergence de nouveaux clusters. On en parle dans 20 minutes avec le président de la région Normandie, Hervé Morin, et mon invité. Puis à 19h30, l'économie de demain, vous la voyez comment, vous ? Plus verte, plus respectueuse de l'environnement ? On en parle avec le directeur de l'innovation chez EDF, et puis avec vous, bien sûr, vos questions, vos réactions au 3921, hashtag Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Enfin, les athlètes osent sortir de leur silence et enfin, il va y avoir un nouveau sang dans les fédérations.
2000 signalements de violences sexuelles reçus par le ministère des Sports. Réaction ce soir de celle qui a témoigné la première, la patineuse Sarah Abitbol.
Les méthodes d'enquête du parquet national financier passées à la loupe. La ministre de la Justice ordonne une inspection après les investigations qui ont touché. La semaine dernière, on en a parlé des avocats.
Dans ce journal aussi, les primes à la conversion boostent le marché automobile. Les ventes repartent à la hausse.
Et les plateformes de livraison de repas à domicile qui vont devoir trouver mieux que leurs emballages jetables en plastique.
Demain dans Le Monde, ce soir, Donald Trump en campagne. Peut-il être affaibli par sa gestion de l'épidémie? Éclairage de Didier François. Enfin, la réouverture des discothèques. Ce n'est pas du tout pour demain. Le Monde de la Nuit en grande difficulté. Alerte lancée par plusieurs DJ ce soir.
Et Anissa, le temps demain.
Avec une nuit d'abord, très agitée, notamment en Rhône-Alpes avec 9 départements placés en vigilance orange. Il est tombé en 30 minutes, l'équivalent de 2 semaines de pluie à Lyon. Actuellement, le vent souffle à 80 km/h dans la région. Les orages seront forts, violents, accompagnés de grêle cette nuit. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Le parquet national financier sous le feu des critiques depuis plusieurs jours. Maintenant, il y a eu les accusations de pression dans l'affaire Fillon. Demain, la procureure générale de Paris sera amenée à s'en expliquer devant une commission d'enquête parlementaire. Et puis, il y a les méthodes d'investigation dans l'affaire des écoutes téléphoniques liées à Nicolas Sarkozy. Les magistrats qui ont épluché les relevés téléphoniques de plusieurs grands avocats. Bonsoir Chloé Triomphe.
Bonsoir.
Sur ce point, la garde des Sceaux Nicole Belloubet demande une inspection.
Exactement, une inspection dont les conclusions devront lui être remises pour le 15 septembre prochain. Alors attention, ce n'est pas une enquête disciplinaire, mais la garde des Sceaux estime que les différents éléments qu'elle a demandés, à la fois au parquet financier et à son autorité de tutelle, le parquet général, sont trop minces, trop légers pour comprendre si les choses ont été faites dans le respect des règles de procédure. Pour Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat FO Magistrats, cette inspection ne sera cependant pas suffisante.
Saisir aujourd'hui l'inspection par rapport à l'émoi qui a été suscité par la révélation de cette enquête préliminaire autour des fadettes des avocats et d'un magistrat peut sembler d'une part un contre-feu et assez paradoxal dans la mesure où l'inspection ne peut pas contrôler la légalité d'une enquête.
Une enquête qui, on le rappelle, a duré presque 6 ans sans parvenir à identifier la taupe qui aurait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient placés sur écoute.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, était mon invitée tout à l'heure. Elle a dévoilé un premier bilan aujourd'hui, un premier bilan de sa politique de prévention des violences sexuelles dans le sport.
2000 signalements sont remontés à la structure qu'elle a créée pour recueillir les témoignages. 177 ont été transmis à la justice. Des mesures d'éloignement ont été prises contre certains agresseurs présumés. Tout avait commencé, vous vous en souvenez, avec le témoignage d'une patineuse, Sarah Abitbol, victime de viol pendant des années. Écoutez sa réaction ce soir face à cette parole qui se libère.
Les choses sont prises en considération. Il est vrai que la ministre Roxana Maracineanu a pris ça vraiment les choses à bras-le-corps et immédiatement lorsque j'ai sorti mon livre « Un si long silence ». Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des fédérations malheureusement inculpées. Alors, à la fois, c'est positif et à la fois négatif, mais on se dit… Enfin, les athlètes osent parler, c'est ça surtout qu'il fallait, osent sortir de leur silence. Et enfin, il va y avoir un nouveau sang dans les fédérations. Et puis, ils vont mettre en place des contrôles d'honorabilité notamment. Et tout s'ouvre en fait, tout s'ouvre. Enfin, grâce à cette parole, tout s'ouvre et les athlètes osent parler.
Sarah Abitbol, jointe pour Europe 1 par Corinne Boulou. Un service de police va être en partie dissous en Seine-Saint-Denis. La compagnie de sécurisation et d'intervention est visée par une quinzaine d'enquêtes judiciaires. Des soupçons de violence, de trafic, de falsification de procès-verbaux. 6 agents sont déjà en garde à vue depuis lundi.
Nous vous donnions ce chiffre dès 18h. Le plan de suppression de postes annoncé chez Airbus pourrait être finalement moins pire que prévu.
Oui, le groupe a prévu de supprimer 5000 emplois en France, mais 1500 pourraient être sauvés grâce au dispositif d'aide des État, comme le chômage partiel de longue durée. C'est ce qu'a confirmé tout à l'heure le DRH du groupe Airbus.
Et le marché automobile, lui, il reprend des couleurs grâce notamment aux primes à la conversion.
C'est notre demain en France. Bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Sébastien, bonsoir Nathalie.
Europe 1 dévoilé ce matin les premiers chiffres. Hein, ça marche, ça part très vite, ces primes à la conversion. Tout le monde ne pourra pas être servi d'ailleurs parce que ce nombre est limité.
Oui, exactement. 50% c'est l'estimation du soir. Hein, la part du quota de primes à la conversion déjà distribuée. Fin juin, on estimait leur nombre à 100 000 environ, soit donc la moitié du montant total plafonné à 200 000. Le mois dernier, près d'une voiture sur 5 s'est vendue grâce à cette prime. À ce rythme-là, il n'y en aura plus entre le 10 et le 25 août. Il faut donc se dépêcher pour en profiter. En échange de votre guimbarde polluante mise au rebut, vous avez donc droit à 3 000 euros pour une essence ou diesel, neuve ou d'occasion, et jusqu'à 5 000 euros pour une électrique. Le dispositif fonctionne un peu comme une seringue qui dope un marché de l'auto à plat après deux mois de rester chez vous et soulage les concessionnaires submergés par les stocks estimés à 400 000 voitures.
Et donc ça fait son effet, ça marche hein, Jean-Pierre, ça a relancé le marché de l'auto.
Bingo, le mois de juin a bien carburé, ces primes n'y sont sans doute pas étrangères, en hausse de 1,2% par rapport à 2019, les clients ont bien repris le chemin des concessions et mis fin à la catastrophe du confinement, hein, symbolisé par ce chiffre en avril, des ventes en recul de 90%. Le rebond du printemps profite surtout à Renault tandis que Peugeot reste dans le rouge. Sinon, succès dingue des voitures d'occasion, hein, tout de suite disponibles et donc prêtes à sillonner les départementales pour un été en France. Boom spectaculaire aussi des voitures hybrides et un degré moindre des 100% électriques soutenus par le bonus écologique de 7000 euros. Après cette embellie, le secteur automobile redoute le contre-coup de la crise économique à la rentrée. Voilà pourquoi de nouvelles primes sont à l'étude avec le gouvernement, avec deux cibles en particulier, les voitures propres et les ménages les plus modestes.
Merci Jean-Pierre Montanet, à demain.
Alors s'il vous arrive de commander des plats livrés à domicile, et ça vous arrive évidemment, vous en êtes forcément rendu compte, tout est jetable, hein. Ça fait des déchets, encore des déchets.
Et notamment du plastique, le gouvernement donne aux plateformes type Deliveroo, Uber Eats ou encore Frichti jusqu'au mois d'octobre pour revoir leur système et proposer une stratégie zéro déchet. Virginie Salmen, il y a dans le viseur notamment les boîtes en polystyrène.
Oui, au lieu de vous faire livrer des sushis emballés dans des boîtes en plastique, ils seront peut-être bientôt apportés dans des récipients en verre ou en alu consignés. Alors, des boîtes réutilisables, ça c'est l'option idéale, mais les acteurs de la livraison de repas à domicile vont devoir proposer un plan pour au moins réduire leurs déchets progressivement, recycler plus. La consigne, c'est une piste sérieuse que nous allons étudier, a affirmé aujourd'hui le patron de Sushi Shop lors de la réunion au ministère de la Transition écologique. Alors, ça existe déjà sur de petits réseaux de livraison locaux, et c'est tout à fait faisable, selon Laura Châtel de l'association Zero Waste.
Le client va pouvoir soit la redonner au livreur la prochaine fois qu'il commande sur la même plateforme, soit la ramener dans le réseau des restaurants partenaires pour récupérer sa consigne. Mais on peut imaginer d'autres modèles où vous êtes immédiatement remboursé en ligne. Il y a beaucoup de modèles possibles. Tout l'enjeu, c'est de faire quelque chose qui soit facile.
Et pour vous, c'est faisable à coût constant ?
Pour nous, c'est tout à fait faisable à coût constant, voire en fait à coût moindre, hein, parce que l'emballage jetable aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte de l'argent.
Bien sûr, il faut compter l'investissement de départ dans ces récipients en verre ou en métal, mais pour la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, c'est le moment ou jamais de lancer ce chantier. Le secteur des livraisons à domicile est en pleine expansion. Il faut inscrire dès aujourd'hui dans leur modèle économique la lutte contre la pollution plastique.
Les précisions de Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, merci. Et puis le défilé d'anciens ministre de la Santé continue devant les députés après Agnès Buzyn. Hier, c'est Marisol Touraine, ministre sous le quinquennat Hollande, qui a été interrogée par la commission d'enquête. Elle aussi rejette toute responsabilité sur les masques. Pas de changement de doctrine à mon époque, dit-elle. Elle avance des chiffres. Il y avait 730 millions de masques à son arrivée et même un peu plus à son départ, 754 millions.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans cette édition de 19h demain dans le monde. Aux États-Unis, en pleine campagne présidentielle, Donald Trump peut-il être affaibli par sa gestion de l'épidémie ? On posera la question à Didier François.
Et puis les DJ alertent sur un secteur économique totalement là à l'arrêt et pour longtemps, les discothèques. Europe 1.
19h10 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Et lors de Demain dans le Monde avec Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir Nathalie.
Avec ce rebond terrible de l'épidémie de Covid-19 qui ne cesse de s'étendre aux États-Unis, on en apprend chaque jour et qui commence quand même clairement à fragiliser Donald Trump à moins de 4 mois maintenant de la présidentielle.
Oui, mais alors c'est parce que Donald Trump a bâti toute sa stratégie électorale sur une seule hypothèse. Il pensait qu'au moment où les Américains seraient appelés aux urnes, donc en novembre prochain, l'épidémie de coronavirus ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Et que la question essentielle pour les électeurs, ça serait la sauvegarde de leurs emplois. Et dans cette équation, ils se voyaient en excellente position, campant l'image du président qui n'a pas cédé à la panique, ne porte pas de masque, du candidat qui n'a pas tremblé devant la maladie et a refusé le confinement pour sauver l'économie.
Bon, à ce stade, pari perdu.
Oui, parce que le fait de ne pas avoir pris de mesures coordonnées à l'échelle fédérale, au niveau du pays, a laissé le champ libre au virus qui se propage à une vitesse encore jamais observée. C'est le constat du professeur Anthony Fauci, le grand patron de la cellule de crise sanitaire aux États-Unis, qui compte plus de 42 000 nouveaux cas chaque jour depuis hier. C'est un record absolu.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes et je suis très inquiet. Je ne suis pas satisfait de ce qui se passe, car si vous regardez la courbe des nouvelles infections, nous n'allons pas dans la bonne direction.
Voilà, or la grande nouveauté, c'est que l'épidémie touche maintenant très fortement les États ruraux républicains où le confinement a été assez léger. C'est donc désormais la base électorale de Trump qui est confrontée à la maladie. Et pour la première fois, le président décroche dans les sondages chez ses propres partisans. Ils ne sont plus que 19% à se déclarer satisfaits de son action, alors qu'ils étaient encore 55% au mois d'avril dernier, ce qui est un retournement très inquiétant pour les équipes de campagne de la Maison-Blanche.
Merci beaucoup Didier François. Le Covid-19 qui menace donc la réélection de Donald Trump, ce sera à suivre bien entendu avec vous. À demain Didier.
À demain.
En France, les boîtes de nuit sont fermées jusqu'au mois de septembre au moins. Et il y en a 6000. Hein, avec elles, des milliers d'emplois sont menacés, comme notamment ceux des DJ. Une centaine d'entre eux se sont rassemblés ce soir dans un club parisien pour marquer le coup, pour manifester en quelque sorte. Ils réclament que les établissements de nuit puissent rouvrir dès maintenant. Angèle Châtelier, vous êtes sur place pour Europe 1 avec ce mot d'ordre pour les DJ. La nuit doit revoir le jour.
Oui, cette phrase est inscrite partout dans le club, le Balrog, dans le 2e arrondissement de Paris. Tous unis, sauvons la nuit aussi. Dans le club ce soir, une centaine de DJ sont rassemblés avec d'autres acteurs du secteur de la musique électronique et de la nuit, comme Mademoiselle Eva, DJ depuis 10 ans, sans revenu depuis des mois.
On attend vraiment que ça se débloque parce qu'on n'a pas de boulot, que les clients sont en attente aussi, du coup nous aussi derrière. Et du coup, on ne travaille pas du tout, quoi.
Et là, ça vous fait quoi de retourner de nouveau dans un club ?
Mais ça fait plaisir. On voit les amis DJ, on retrouve un peu tout le monde. Donc ça fait plaisir. En fait, c'est bizarre. C'est comme si ça faisait... on sortait du confinement. C'est encore une deuxième sortie de confinement pour nous. C'est un peu bizarre, quoi.
Bizarre aussi car certains DJ mixent ce soir, mais devant des chaises et des tables, interdit de se lever et de danser. La vie nocturne est loin d'être de retour. Mais le directeur du club est pourtant prêt à rouvrir de cette façon. Une manière, selon lui, de faire travailler ses équipes, mais aussi les DJ qui arrivent tous ce soir avec un masque qu'on leur donne à l'entrée sur lequel est cousu le mot-clé « Je suis DJ ».
Voilà. Oui, forcément, il faut retrouver, il faut redonner des couleurs à ces nuits. Merci beaucoup Sébastien Krebs. On se retrouve évidemment à 19h30. Anissa, 9 départements en vigilance orange aux orages.
Oui, pour ce soir et cette nuit, effectivement, Nathalie, il s'agit de l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Saône-et-Loire, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire. Donc, dans toute cette région Rhône-Alpes, ça va être très agité et ça a déjà commencé entre 17h et 17h30. En 30 minutes, on a eu l'équivalent de 2 semaines de pluie rien que sur la ville de Lyon. À Lyon, nous avons également des fortes rafales de vent. Attention, nous avons des branches d'arbres qui sont tombées au sol et sur les routes. Soyez extrêmement prudents dans les prochaines heures en Rhône-Alpes. Alors, après les orages qui vont toucher une partie de la France cette nuit, les nuages seront encore bien présents. Demain, avec un temps très gris, il n'y a qu'au bord de la Méditerranée qu'il fera beau. Les températures, elles baissent, avec le Mistral aussi qui souffle dans le sud. 12 degrés à Rennes, 13 à Rouen, 14 à Limoges, Cherbourg, 16 à Paris, 19 à Carcassonne, 22 à Perpignan, ça c'est pour le matin. Et l'après-midi, ça baisse bien, avec seulement 20 degrés au Havre, 22 à Biarritz et Bordeaux, 23 à Paris et Metz, 25 à Clermont-Ferrand, 26 à Strasbourg, 27 à Nice. Et il fait très chaud et très lourd dans l'extrême sud, avec 30 degrés à Bastia, 32 à Marseille et 34 à Nîmes. Europe 1. À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie.
Oui, et les départs des juilletistes, hein, ça y est, qui se précisent et qui suscitent pour certains aussi l'inquiétude d'une réapparition de l'épidémie. Faut-il craindre de nouveaux clusters en vacances ? On en parle avec mon invité Hervé Morin, président de la région Normandie.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et on se tourne vers demain. Avec le début des grandes vacances, on y pense, mais elles suscitent des inquiétudes. Doit-on craindre l'apparition de nouveaux clusters, foyers d'épidémie du Covid ? On en parle avec votre invité Nathalie, le président de la région Normandie, Hervé Morin.
Bonsoir Hervé Morin.
Bonsoir Nathalie Lévy.
Bienvenue sur Europe 1. Hervé Morin, la Normandie a identifié 10 clusters. Et hier, l'Agence régionale de santé a annoncé que le taux de reproduction effectif du virus était repassé en dessous du seuil d'alerte, mais reste malgré tout au-dessus du seuil de vigilance. Y a-t-il une véritable inquiétude alors qu'il est chez vous ?
Nathalie Lévy, venez en Normandie. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça. On a en effet été plutôt peu touché par le Covid par rapport à d'autres régions. On a en effet eu quelques clusters liés à un certain nombre d'événements, pour l'essentiel concentrés sur deux agglomérations. Mais clairement, quand on analyse les autres critères sur le Covid, on constate que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, même si les gens ne sont pas forcément très raisonnables dans la vie quotidienne aujourd'hui, on n'a pas de quoi se dire qu'on est reparti vers une flambée.
Mais justement, cette flambée, vous l'avez jamais connue en Normandie, justement, Hervé Morin. Cette flambée, vous ne l'avez pas connue en Normandie, vous avez été largement épargné. Que s'est-il passé, ces clusters-là dont on parle ? Savez-vous ce qu'il en est précisément ? Y a-t-il eu de grands rassemblements ? C'est lié à quoi ?
Non, c'est lié par exemple à une veille funéraire, c'est lié à un EHPAD, c'est lié à des événements de la vie quotidienne.
Un relâchement également ?
Le relâchement, excusez-moi, mais j'ai fait campagne il y a une huitaine de jours rue des Martyrs avec le candidat de Rachida Dati. Franchement, relâchement, il était quand même extrêmement significatif dans les bars de la rue des Martyrs dans le 9e arrondissement. Le relâchement, il existe partout. J'étais dans le sud de la France, dans des villes pour la campagne électorale. Et c'est difficile pour les gens aujourd'hui de continuer à conserver énormément de distance quand, par exemple, vous avez des villes dans lesquelles il n'y a quasiment pas eu de Covid ou pas du tout depuis 3 semaines ou 1 mois.
Mais c'est effectivement protégé. Voilà, c'est peut-être là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, quand on a été tout à fait protégé ou en tout cas largement protégé, est-ce que il n'y a pas sujet à se dire aujourd'hui la reprise de l'activité a peut-être été trop brusque, le déconfinement a été trop rapide. Et surtout, est-ce que vous craignez un regain avec les grandes vacances ? Comment vous allez fonctionner avec le retour des touristes, l'arrivée même cet été ?
Écoutez, les touristes en question sont aussi des Français qui, normalement, doivent respecter ces règles dans leur dans la ville ou dans le domicile ou le quartier où ils sont. Et donc, il n'y a aucune raison qu'ils ne continuent pas à appliquer les mêmes prudences ou les mêmes précautions que celles qu'ils avaient avant. Tout ce que je sais, c'est que, vous voyez, à l'heure actuelle, je fais des réunions avec les chefs d'entreprise par bassin d'emploi. Tout ce que je sais, c'est que la France ne peut pas s'offrir
un nouveau confinement.
Un nouveau confinement.
Mais par région, peut-être, vous avez vu le Portugal, Hervé Morin, c'est le cas à l'heure actuelle. Est-ce que par région et un reconfinement dans la région Normandie, quelles conséquences cela aurait ?
D'abord, il faudrait que s'il fallait qu'il y ait des coins en France où le Covid reprenait des flambées, c'est évident qu'il faudrait, je pense, traiter ça localement et certainement pas par des décisions nationales. Déjà, première chose, parce que nous, on a toujours tendance à vouloir centraliser la décision. Je pense qu'il faudrait l'appliquer sur ce qu'ont fait d'ailleurs les Allemands, c'est-à-dire sur des zones particulières où il y aurait une tension particulière. Et puis, deuxièmement, je vous le dis, nos compatriotes n'ont peut-être pas encore complètement, même si depuis quelques jours on a les annonces de grands groupes avec des réductions d'effectifs importants, mais on vit là dans une période un peu sous assistance respiratoire. On est sous perfusion et on voit très bien que la situation risque d'être extrêmement compliquée à l'automne. Et donc clairement, s'il fallait que des pans entiers de l'économie nationale soient à nouveau touchés par un regain du Covid, ce serait absolument dramatique. On voit bien que des secteurs entiers sont sur des niveaux d'activité dans les prochains mois qui sont extrêmement préoccupants. Et donc, franchement, il faut qu'on soit tous conscients de l'enjeu pour, j'allais dire, le pays lui-même.
Bien sûr. Hervé Morin, juste une question encore, parce que je voudrais qu'on aille aussi sur l'après-municipal avec vous. Juste un mot sur ces clusters, parce que malgré tout, ça en fait 10 dans cette région Normandie qui avait quand même été largement épargnée.
Non, mais est-ce
que
vous craignez... Très bas,
j'entends
Nathalie
bien, mais...
Lévy, attendez. quand vous partez de très bas, forcément, dès lors que vous en avez un peu plus,
ça se voit plus.
Les indices,
ça se voit plus. Ça fait plus, ça fait effet de loupe grossissante. J'entends bien, mais est-ce que vous craignez, juste d'un mot, que ces clusters ne dissuadent les touristes, même français, de venir chez vous en Normandie cet été et
Voilà. Écoutez, si je vois le nombre de Parisiens qui sont sur les côtes, sur la côte fleurie, par exemple. Le week-end, je peux vous dire que ça ne dissuade pas les Parisiens de revenir dans leur résidence secondaire pour ceux qui en ont et de profiter du climat qui, comme vous le savez, est toujours très ensoleillé en Normandie chaque week-end.
Voilà, ça c'est fait. Dites-moi, Hervé Morin, il y a bien sûr cette gestion de la crise versus Agnès Buzyn qui s'en est expliquée hier, cette audition par la commission d'enquête. Elle a déclaré, ça n'a pas dû vous échapper, vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas anticipé que la France était extrêmement bien préparée. Avez-vous écouté? Qu'en avez-vous retenu?
Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai lu les comptes rendus faits par vos camarades de la presse écrite. Écoutez, moi, la seule chose que je me dis, c'est que je compare à d'autres pays européens, c'est tout, quoi. On n'avait ni test ni masque. Bon, voilà, quoi. Disons les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est toujours facile de donner la leçon après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même eu de vraies faiblesses dans l'anticipation. Personne, il n'y a pas un Français qui pense que ça a été anticipé convenablement. Moi, je ne les ai pas rencontrés. Tout ce que je sais, c'est qu'on a eu un début d'entrée de crise, si je puis dire, qui a été extrêmement chaotique. Je vous rappelle qu'on est encore en difficulté sur un certain nombre de sujets, de surblouses, sur le curare, etc. Donc, très clairement, ce que je sais, c'est que derrière ça, il faut se donner des leçons et des leçons sur le long terme.
Alors justement, attendez, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vous laisse parler. Hervé Morin, juste un mot quand même, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, tout simplement. Et puis je vous ai bien laissé parler. Cette faiblesse de l'anticipation que vous avez pointée là, mais que vous avez souvent pointée pendant cette crise, et je vous ai souvent eu en ligne, donc je connais votre propos. On est à la veille du remaniement. Qu'attendez-vous, vous, aujourd'hui, du gouvernement?
Ce que j'attends du gouvernement, c'est deux choses. La première, c'est d'avoir beaucoup de vigilance sur le discours. On a un pays qui est très fracturé, avec une colère rentrée de beaucoup de nos compatriotes. Et donc, il faut être très attentif pour préserver la cohésion et l'unité nationale. Tout geste, tout comportement, tout discours qui risquerait de rompre encore un peu plus ou de fracturer encore un peu plus le pays serait mettrait en danger l'unité du pays. Deuxième chose, j'attends qu'on ait dans les ministères un peu moins de techno et un peu plus de personnes qui connaissent les Français et qui les vivent au quotidien parce qu'ils sont peut-être aussi un peu plus confrontés. Oui, mais pas la société civile. Vous savez, quand vous faites de la politique, vous êtes confronté aux compatriotes tous les jours là. Vous voyez, dès que je vais vous quitter, je vais aller voir les usagers du train à Caen qui vont m'engueuler parce que les trains ne marchent pas en Normandie.
C'est un appel du pied que vous faites, Hervé Morin ?
Pardon ?
C'est un appel du pied que vous faites, Hervé Morin ?
Non, moi j'ai aucune envie de rentrer au gouvernement. Alors là, pas le moins du monde, très heureux à la tête de ma région, il y a plein de choses à faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il nous faut des hommes et des femmes qui ont été confrontés à la vie quotidienne de nos compatriotes, parce qu'ils ont été maires, parce qu'ils ont eu des responsabilités locales, et qui, au bout du compte, appréhendent beaucoup mieux le pays que le techno qui a passé 20 ans dans un ministère, dans l'administration centrale.
Merci beaucoup Hervé Morin, en tout cas d'avoir répondu ce soir à mes questions, tant effectivement sur cette gestion de la crise que sur ce remaniement à venir, dans les tout prochains jours en tout cas. Merci beaucoup à vous, président du Conseil régional de Normandie, Hervé Morin, merci.
Europe 1. À suivre Nathalie Lévy.
Et oui, dans un instant, on va revenir ensemble sur notre économie. Comment la rendre plus verte? Comment activer une relance respectueuse de l'environnement? On va poser la question à nos invités et puis à vous, bien sûr. On attend vos réactions 3921, hashtag Europe 1. Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Le parquet national financier va subir une inspection sur ses méthodes d'enquête. Inspection demandée par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, notamment sur les investigations qui ont conduit les magistrats à éplucher les relevés téléphoniques de plusieurs avocats. 2019, année record pour la lutte contre la fraude fiscale. 12 milliards d'euros ont été récupérés par l'État, annonce sur Twitter le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. À retenir aussi ce soir le plan de suppressions de postes annoncées chez Airbus pourraient être moins pires que prévu. Sur les 5000 emplois supprimés annoncés, 1500 pourraient être sauvés grâce au chômage partiel de longue durée. Le constructeur de véhicules électriques Tesla est devenu aujourd'hui l'entreprise du secteur automobile la plus chère en bourse, valorisée 207 milliards de dollars. Et puis la fin d'une longue bataille judiciaire autour d'un tableau de Pissarro. Un couple de collectionneurs américains va devoir rendre cette œuvre aux descendants d'une famille française juive qui avait été spoliée pendant la guerre.
Merci Sébastien. Demain, 18h, vous serez là pour de nouvelles infos, bien sûr, en direct. Anissa, du côté du ciel de ce jeudi, oui, parce que demain sera bien jeudi.
Exactement.
C'est des nuages et des températures en baisse.
Oui, effectivement, la journée de demain sera très mitigée. Pas vraiment une journée estivale. On aura des nuages sur quasiment tout le pays, sauf sur le pourtour méditerranéen où là, il fera beau. Mais là où on va s'arrêter ce soir, c'est vraiment sur ce qui va se passer cette nuit, puisque nous avons 9 départements en vigilance orange aux orages violents. L'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Saône-et-Loire, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire, donc une grande partie de la région Rhône-Alpes, avec des orages qui ont déjà commencé dans ce secteur. La ville de Lyon vient d'être touchée, Clermont-Ferrand également, avec des orages assez violents accompagnés de vent et de grêle. Donc grande prudence dans ce secteur, avec toujours ces départements en vigilance. Et puis demain, les températures, ça va de 20 à 34 degrés, il fait bien plus frais au nord qu'au sud. Dans l'extrême sud, il va faire même lourd demain après-midi avec 34 à Nîmes. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et ce soir, on se projette vers l'avenir de notre économie jusqu'à 20h. Comment la rendre plus écologique, plus respectueuse de l'environnement, vers une relance verte, pourquoi pas? On en parle avec vos invités. Nathalie, vous recevez ce soir Alexandre Perra, directeur exécutif d'EDF, en charge de la direction innovation, responsabilité d'entreprise et stratégie, et l'économiste Nicolas Bouzou.
Bonsoir messieurs, bienvenue dans ce studio.
Bonsoir.
Nicolas Bouzou, on l'entend, on a vu les résultats des élection municipale. On s'est parlé pendant la crise du Covid, quand on était un peu tous en télétravail, oui. on va pas se mentir. Beaucoup aujourd'hui le disaient, beaucoup l'ont dit, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Il faut reconstruire une économie plus verte. C'est essentiel et fondamental. On a vu le résultat de dimanche au municipal. Il faut des outils économiques de gestion de l'environnement. On doit réfléchir au modèle économique qui devra se dessiner demain. Ça y est, on en a pris conscience. On y est lancé.
Ah oui, je crois qu'on est lancé, je crois que c'est une très bonne chose et ça, d'ailleurs, doit nous amener à corriger une erreur qu'on a pu faire par le passé qui était d'opposer l'écologie et l'économie. Or, en réalité, les deux vont très bien ensemble et on peut parfaitement imaginer une relance de l'économie qui soit une relance verte. Je vous donne un exemple très, très concret. On évoque beaucoup l'économie circulaire. Vous voyez, l'économie circulaire, c'est l'idée selon laquelle il faut produire des biens qui ont une durée de vie beaucoup plus longue que ce qu'on fait aujourd'hui et puis des biens qui sont réparables. Quand ils ne sont pas réparables, ils peuvent être démontables. Et puis, quand ils ne sont pas démontables ou les parties non démontables, on doit pouvoir les valoriser énergétiquement. Vous voyez, donc ça, c'est absolument formidable parce que c'est de l'écologie et c'est aussi de la croissance. C'est de la croissance à très forte valeur ajoutée parce que ce sont des produits auxquels il faut réfléchir dans la conception, donc ça demande beaucoup de recherche et développement. Et puis, ça génère aussi des emplois qui sont intéressants socialement. Vous voyez, tous les emplois de réparation, par exemple, c'est des emplois, des magasins qu'on peut trouver dans des centres-villes, de villes qui ont un peu souffert, qui sont dans des coins qui ont été affectés par la désindustrialisation. C'est pas forcément des gens qui ont eu la chance de faire des études très longues. Donc, c'est très intéressant. Donc, vous voyez, il y a des exemples concrets, mais tout ceci, ça s'organise.
Ça ne se fait pas tout seul.
Il faut une politique pour ça.
Il faut une politique pour ça. Vous allez me dire dans un instant si on est dans les clous, parce que, par exemple, le Canada est très en avance sur nous. Vous me direz si je me trompe ou pas dans un petit instant. Évidemment, on parle d'EDF parce que vous êtes là, directeur exécutif de ce groupe. Alexandre Perra est avec nous. Quelle doit être la mission, le rôle d'un groupe comme EDF dans cette transition écologique attendue, voulue, là et nécessaire?
Écoutez, c'est amusant, vous parlez du mot de mission. C'est exactement le mot que nous avons repris à notre compte il y a quelques mois, à vrai dire près d'un an, lorsque nous avons demandé à nos salariés, finalement, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? C'est quoi la raison d'être? Vous savez que la loi Pacte permet à des entreprises d'inscrire une raison d'être dans leur statut. Nous y avons réfléchi et précisément, avec 4500 employés de l'entreprise, nous avons réfléchi. Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin? Et ce qui nous fait lever le matin, c'est exactement de construire cet avenir énergétique neutre en CO2. Neutre en CO2, pourquoi? Parce que le CO2 aujourd'hui, c'est le plus grand danger contre le réchauffement climatique. Alors vous voyez, quand pendant la crise du Covid, au bout de quelques jours, on entend pointer des premières voix qui alertent et qui disent « Attention, une crise n'en cache pas une autre, en cache une autre en réalité. La crise du Covid cache la crise climatique. Attention, il va falloir relancer, mais il va falloir relancer durablement. Et la mission d'EDF, c'est précisément de construire cette croissance durable. Comment ? Grâce à l'électricité. Alors l'électricité, aujourd'hui, la France, elle bénéficie d'un atout magistral, c'est son mix électrique. Son mix électrique, il est essentiellement 90%, plus de 90% sans CO2. Il y a peu de pays aujourd'hui qui peuvent dire ça dans le monde. Et c'est un énorme avantage, parce que vous parliez tout à l'heure dans le journal de Tesla, qui enregistre des ventes de véhicules incroyables. Une voiture électrique, c'est très bien, mais si une voiture électrique, on la recharge avec de l'électricité très émettrice en CO2, ça ne sert absolument à rien pour le climat. Donc voilà, la France a un énorme atout avec son électricité. Nous, on pense qu'il faut continuer à miser sur cet atout, et si possible, à étendre les usages de l'électricité vers tous les secteurs qui produisent encore, qui émettent encore du CO2.
Alors, on va y revenir évidemment dans un instant. On va parler aussi de la fermeture de Fessenheim parce que ça date d'avant-hier. Oui, hein, donc, on ne peut pas faire l'impasse. Juste un mot, Nicolas Bouzou, pour nous situer aujourd'hui dans le monde. On est comment sur cette prise de conscience, sur cette avancée, sur ce virage vert? Je parlais du Canada qui est très en avance sur nous. Est-ce que je fais erreur, par exemple?
Alors, en fait, ça dépend de quoi on parle. Mais sur le sujet principal qui est l'électricité. Il faut savoir que quand vous regardez les émissions de carbone, les émissions de CO2 dans le monde, le premier contributeur de très loin, c'est la production d'électricité. Et en France, on est un très bon élève, justement parce que notre électricité, elle n'est pas faite à partir d'énergie primaire qui produit du CO2. Et donc ça nous permet d'être dans tous les classements internationaux en matière d'émissions de CO2 extrêmement bien placés. La France, aujourd'hui, c'est à peu près 1% des émissions de carbone dans le monde. Après, il y a des sujets sur lesquels en effet, on est un peu en retard. J'ai évoqué par exemple l'économie circulaire. Il y a un petit bout de l'économie circulaire qui s'appelle le recyclage. Là, on peut encore faire des choses extraordinaires en France. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est celui des logements, d'isolation des logements. Sujet très concret, mais absolument majeur. Quand dans la partie haute de la France, au-dessus de Clermont-Ferrand, on a par exemple du simple vitrage, ça veut dire que l'hiver, on chauffe le jardin ou on chauffe la rue. Vous voyez, donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est complètement absurde. Donc
ça fait partie des propositions de la Convention citoyenne.
Pour le coup, alors j'ai peut-être des critiques à émettre à l'égard des conclusions de cette convention, mais ça, en revanche, évidemment, c'est du bon sens. Et vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est bon pour l'économie si on s'organise bien. C'est bon pour les gens parce que ça permet de faire des économies et donc ça réduit la facture de chauffage par exemple. Et c'est bon pour l'économie parce que ces habitats, il faut tout simplement les isoler. Et en période de crise, ça génère de l'emploi et donc c'est tout sauf idiot.
Évidemment. On va se retrouver dans une petite seconde. Je vais vous donner la parole, Alexandre Béat. Juste, Marie-Pierre nous appelle depuis Rouen. Bonsoir à vous, Marie-Pierre.
Bonsoir.
Bienvenue. Marie-Pierre, évidemment, il y a ces élections municipales il y a quelques jours, dimanche dernier. Et puis on voit à l'étranger, puisque je parlais du Canada, vous avez d'autres exemples, vous ?
Oui, alors moi j'ai eu l'occasion d'aller deux fois à Copenhague quelques jours et donc de constater un système qui est complètement fini parce qu'ils ont mis ça en place il y a déjà longtemps, donc ils ont eu le temps d'affiner leur projet et de l'améliorer. Et c'est le mode de fonctionnement qu'ils ont adopté pour la mise en place des vélos. Et là, on comprend que d'abord, ils ont créé deux sortes d'espaces. Les rues qui sont suffisamment larges pour qu'il y ait au centre deux voies de circulation pour les véhicules, puis sur chaque côté, un peu surélevé, deux voies de circulation pour les vélos, ce qui fait que chaque couloir de vélo, les vélos roulent tous dans le même sens. Il y a la place pour se doubler, il y a la place pour rouler avec une carriole, et il n'y a pas de difficulté du coup pour les trottinettes.
Oui. Sauf que c'est déjà culturel, c'est quand même, c'est pas un virage qu'ils ont emprunté, c'est vraiment dans leur culture, et puis c'est pas non plus la même densité d'habitants.
C'est pas la même densité. En même temps, je vous parle pas de l'ensemble du Danemark, uniquement de Copenhague. Sauf erreur de ma part, ils sont 5 millions, donc c'est quand même pas non plus une densité. Ça, il y a plein de villes françaises qui pourraient adopter cette chose-là et qui ont pourtant une population moins importante. Donc, il y a ça pour les rues qui sont larges. Les rues qui sont pas larges, soit elles sont complètement piétonnes et là les vélos sont simplement tolérés et on doit plutôt être à pied et pousser son vélo. Soit ce sont des rues qui sont suffisamment larges pour qu'il y ait des espaces de stationnement.
Oui, donc un exemple à suivre.
Parce qu'il faut quand même que vous sachiez, parce que c'est le plus important.
D'un mot alors, s'il vous plaît, Marie-Pierre.
Les voitures n'ont le droit de stationner que dans la rue où habite le propriétaire.
Le propriétaire, voilà. Sinon, donc merci beaucoup Marie-Pierre, merci. On a compris que vous étiez totalement inspirée et j'allais dire oui, fan de ce qui se fait là-bas. On va en parler d'ailleurs dans un petit instant avec vous deux, avec Nicolas Bouzou, Alexandre Perra. Merci à vous, on est ensemble jusqu'à 20h.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et vos invités. Ce soir, on se projette vers l'avenir. On pense à notre économie. Comment la rendre plus écolo, plus respectueuse de l'environnement? Vous pouvez nous rejoindre et réagir au 3921.
Avec Alexandre Perra, directeur exécutif groupe EDF, en charge de la direction innovation, responsabilité, entreprise et stratégie, et l'économiste bien connu Nicolas Bouzou, qu'on a toujours le plaisir d'accueillir. Merci à vous d'être là. On va passer, même si c'est intéressant, effectivement, l'exemple du Danemark, de Copenhague, avec les vélos dont nous parlait Marie-Pierre à l'instant à Rouen. Mais très concrètement, parce que y a aussi l'aspect électrique avec vous et la manière dont EDF est en train d'essayer de nous faire, d'essayer de nous faire changer nos modes de consommation. Comment vous donnez les clés aujourd'hui aux citoyens, aux domiciles que vous équipez, aux foyers ?
Bien, avec des objets très simples, hein, une pompe à chaleur, on parlait par exemple du logement. Le logement aujourd'hui, c'est 20% des émissions de CO2 en France. Et donc, ça réchauffe directement le climat. Eh bien, en changeant une chaudière au fioul ou au gaz et en la remplaçant par une pompe à chaleur, on divise sa facture d'électricité, d'énergie par 3 et ses émissions de CO2 par 10. Voilà. Alors, c'est un investissement dans un matériel un peu plus coûteux, mais aujourd'hui, il y a des aides, et une aide notamment d'EDF qui va jusqu'à 5000 euros et qui permet de rentabiliser cet investissement en 1 à 2 ans. Voilà. Donc, c'est ce genre de gestes très précis qui permettent effectivement d'avoir un effet.
Qui commence à avoir un peu une résonance.
Oui, absolument, ça marche bien. On a lancé une offre qui s'appelle Mon chauffage durable et qui décolle tout à fait.
C'est ce genre d'initiative, évidemment, Nicolas Bouzou, qui va faire des petits et qui va faire que le citoyen va se prendre en main, évidemment. Mais le citoyen, c'est une chose, l'État, c'en est une autre. Oui. On est dans des proportions, nous, au quotidien, à notre niveau, qui sont quoi, anecdotiques ?
Ah non, pas du tout. Mais il faut quand même qu'on soit capable de hiérarchiser les problèmes. Il y a deux choses qui, à mon avis, sont très, très importantes, parce qu'on a quand même beaucoup d'études maintenant sur l'écologie. Oui. On sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On sait qu'on a deux types de politiques qui fonctionnent. La première politique, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone. Alors, ça peut faire un peu peur, la taxe carbone, parce qu'on se dit c'est un impôt, etc. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Il s'agit de donner un prix au carbone. Il s'agit de faire payer ceux qui émettent le plus de carbone. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est très efficace. Et c'est une excellente nouvelle. C'est à l'agenda de la
Commission européenne. Il faut taper au porte-monnaie, donc c'est ce que vous nous dites quand même encore.
Bah oui, mais
c'est comme ça que ça fonctionne encore.
Donc. Ah oui, c'est comme ça que ça. Bah oui. Si ceux qui polluent le plus, vous les faites payer plus, vous allez voir qu'ils vont polluer moins. Donc ça fonctionne très bien. Donc il faut le faire. Et il faut que ce soit fait au niveau européen. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment la question de la production d'électricité. Alors, je ne vais pas anticiper sur la suite de notre débat, mais de ce point de vue-là, la fermeture du deuxième réacteur de Fessenheim est. Pardonnez-moi de le dire vivement vivement, mais je suis très en colère parce que je trouve que c'est vraiment un. Tiens, on parle beaucoup d'écocide, vous voyez, et bien ça, c'est une forme d'écocide. C'est-à-dire que quand vous produisez une électricité qui n'émet pas de CO2, que vous fermez ça, et que du coup, vous obligez d'une certaine façon nos amis allemands qui utilisaient beaucoup cette énergie à produire du charbon, mais sur le plan climatique, mais c'est une folie absolue.
Alors, quelle stratégie on met en œuvre pour réhabiliter le nucléaire ? Les opposants souvent ne comprennent pas forcément l'enjeu. Comment on fait ? Quelles sont les stratégies ?
Alors, il y a un sondage qui a montré il y a quelques mois que la plupart de nos concitoyens pensaient que le nucléaire, c'était l'une des énergies qui était la plus polluante. Et donc là, je dirais que la balle, elle est dans notre camp et c'est sans doute nous, EDF, moi, vous, les journalistes, qui n'avons pas bien fait, on n'a pas bien fait notre travail. Parce que là, on voit qu'on a un problème pédagogique absolument majeur. Moi, je suis très favorable aux éoliens, je suis très favorable au photovoltaïque. Je pense que c'est des choses qu'il faut pousser.
L'éolien, c'est pas un leurre.
Mais il faut quand même savoir que le nucléaire fait moins d'émissions de carbone que l'éolien ou que le photovoltaïque.
Comment on fait Alexandre Perra pour alors redorer le blason du nucléaire et lui donner un véritable avenir en France, à votre niveau.
Nicolas Bouzou disait il faut faire de la pédagogie. C'est
bien
vrai,
sûr.
Quand 2 jeunes sur 10 pensent que savent que le nucléaire n'émet pas de CO2, c'est un vrai problème parce que c'est là-dessus qu'ils vont ensuite être demain électeurs et faire des choix politiques qui engagent la France et son mix énergétique. Mais plus globalement, je crois aussi qu'il faut être très humble et dire on a un problème qui est le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il faut reconnaître qu'il vient de trop d'émissions de carbone dans l'atmosphère. Comment on réduit les émissions de carbone ? On mise sur toutes les énergies qui n'émettent pas de carbone. Elles sont diverses. On parle du nucléaire, il y a le solaire, il y a l'éolien, terrestre et maritime.
On va y venir quand même, l'éolien et le solaire, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas évident. Quand
vous avez raison, et c'est ce que je disais, il faut être humble, rien n'est évident. Chaque énergie a ses avantages et ses inconvénients. Donc il faut un mix. Il faut un mix de toutes ces énergies et surtout arrêter d'opposer les énergies les unes aux autres. Et surtout, s'attaquer au vrai problème qui est la source des émissions de CO2. Et la source des émissions de CO2 en France, elle n'est pas dans la production d'électricité, elle est chez nos, dans nos comportements. Avec quelle voiture on roule, avec quelle source d'énergie on se chauffe.
On va sur l'éolien dans un petit instant et sur le solaire parce que j'aimerais bien que vous m'expliquiez 2-3 points et les auditeurs seront attentifs. Et puis justement, les auditeurs attentifs et qui nous appellent aussi pour partager avec nous au 3921 tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Nathalie, on essaye de voir comment rendre notre économie plus écolo, plus respectueuse de l'environnement. Ça vous fait réagir ce sujet? N'hésitez pas à venir nous rejoindre au 3921.
Oui, par exemple, Jérôme qui nous appelle. Bonsoir à vous, Jérôme Michaud, La Rivière, président fondateur de New World Wine. Bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous, vous êtes inspiré des mouvements observés dans la nature pour reproduire un arbre, expliquez-nous.
Oui, c'est ça. C'était l'idée de récupérer l'énergie disponible en ville, en milieu urbain, là où on prétend qu'il n'y a pas de vent. Mais en fait, il y a de l'écoulement d'air constant, disponible, et il n'y a qu'à le prendre. Et la difficulté du monde urbain, c'est que la densité et l'acceptabilité. Et donc l'idée, un jour, est venue en observant la nature. Un jour sans vent, je voyais les feuilles des arbres frémir sur leurs tiges. Et je me suis dit, si on pouvait capter le frémissement de cette... de ce mouvement et le traduire en énergie, peut-être que multiplié par le nombre de feuilles qu'elle comporte un arbre, on aurait une puissance intéressante. Et c'est ce qu'on a fait. On a transformé donc chaque feuille en microgénérateur et on les a disposés dans une forme d'arbre. Et
en termes de résultats, du coup, ça donne quoi en énergie
Alors bien sûr, pour répondre à votre débat de précédent, on ne va pas remplacer le nucléaire, mais c'est une action modeste à l'échelle de la famille ou de l'entreprise ou de la mairie. Et on peut comme ça satisfaire à peu près 80-90% des besoins énergétiques d'une famille de 4 personnes, hors chauffage.
Ah oui, quand même. Merci beaucoup Jérôme Michaud-Larivière d'être venu nous expliquer cela sur Europe 1. Ça fleurit, c'est ce que de le dire, ça fleurit ce type d'initiative, Nicolas Bouzou.
Non mais il y a plein de choses, il y a des choses vraiment exceptionnelles et qui commencent à être très efficaces. Je vous donne un exemple concret. J'étais hier en Bretagne. En Bretagne, vous savez, il y a énormément d'agriculteurs qui font beaucoup de cochons. Et alors, le cochon, il fait beaucoup de... il émet beaucoup de déchets, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces déchets, ils dégagent du méthane. Si vous les faites chauffer un peu, à 38 degrés, vous mettez les déchets dans une cuve, ça vous fait de l'énergie. Vous pouvez mettre ça sur une génératrice qui va vous faire de l'électricité. Cet agriculteur m'expliquait qu'il a dû dépenser pour cette installation à peu près 2 millions d'euros. Il a une aide de 400 000 euros, donc ça fait 1,6 million d'euros. En 5 ans, il l'aura rentabilisé. Et vous savez combien de foyers fournis en électricité ? 400 foyers en électricité. Et notre ami agriculteur qui a un peu de difficulté parce que l'élevage, vous savez, c'est compliqué, c'est très concurrentiel. Puis les gens, ils mangent de moins en moins de viande, ce qui est pas mal d'ailleurs. Et donc ça lui permet de gagner de l'argent. Ça, c'est formidable parce que c'est de l'écologie et c'est de la croissance pour un secteur qui, en plus, a un peu besoin de se diversifier.
Évidemment, je le dis de manière un peu provocatrice, Alexandre Perra tout à l'heure, l'éolien, le solaire, rien d'évident, tout ça est un leurre. Mais quand même, essayons de comprendre parce qu'on voit bien que l'éolien, le processus est très contesté, fortement contesté, un échec confirmé pour l'Allemagne. En France, on est très en retard là-dessus. On est dans des dispositifs qui sont quand même pas évidents.
Oui, je le disais tout à l'heure, chaque énergie a ses inconvénients. L'éolien, par exemple, on parle beaucoup de climat, mais c'est aussi une année de biodiversité. On considère que la biodiversité est une grande cause et qu'il faut la défendre. Les ENR, aujourd'hui, posent un certain nombre de questions sur la biodiversité. Faire des grandes fermes solaires, ça pose la question de l'artificialisation des sols, ça pose la question des animaux qui ne peuvent plus vivre sous ces fermes solaires. Pour autant, est-ce qu'il faut ne pas le faire ? Non, il faut en faire un petit peu. Il faut diversifier. Je rebondis aussi sur ce que disait Jérôme et l'exemple de Nicolas Bouzou. Nous, on pense que c'est très bien que les citoyens adoptent cette question de l'énergie et essayent de trouver des solutions à leur échelle. Je pense que d'ailleurs, on a dû croiser Jérôme dans des concours d'innovation et son projet me dit quelque chose. Je pense même qu'on a fait un petit bout de chemin avec, avec lui. Mais c'est évidemment une question dont il faut que chacun se saisisse. Et les solutions, elles sont à différentes échelles. Elles sont aussi à l'échelle de mon toit. J'ai un pavillon, je décide de mettre des panneaux photovoltaïques et pourquoi pas de stocker mon électricité demain. Demain, j'ai une voiture électrique. Nous, on travaille déjà sur la voiture qui, demain, permettra de décharger l'électricité dont on n'a pas besoin immédiatement pour rouler sur le réseau, pour venir soulager le réseau au moment où tout le monde rentre chez soi à 19h et fait tourner sa machine à laver.
Parlons, alors j'entends ce que vous dites, donc tout ça c'est effectivement à l'échelle individuelle et c'est comme ça aussi qu'on va avancer. On a vu l'impact de cette crise sur les grandes entreprises, les petites, les moyennes aussi d'ailleurs, avec cette transition énergétique, écologique qu'il faut empoigner aujourd'hui vraiment. Est-ce que c'est par là que passera aussi notre salut sur le plan économique, Nicolas Bouzou, en termes de création d'emplois, en termes de nouvelles branches, etc.
Ah bah, si on le fait intelligemment, oui. Si on dit il faut moins de croissance, il faut moins produire, il faut moins de tout, bah là on aura moins d'emplois et plus de misère et en plus on n'aura pas beaucoup moins de pollution en réalité parce qu'on voit bien que cette année on a une décroissance, on va avoir une décroissance de 10% et ça ne suffit même pas à remplir les objectifs de l'accord de Paris. Donc on ne va pas faire ça tous les ans pour un résultat qui est somme toute assez limité. Donc justement, il faut prendre le problème de cette façon-là en se disant comment on concilie les deux. Vous voyez, je pense que c'est ça la bonne façon d'aborder le sujet. Et il est clair qu'on va détruire des emplois, forcément.
Inévitablement.
Il ne faut pas se mentir.
Avant d'en créer, on va en détruire.
Si vous faites moins de voitures thermiques, par exemple, on est en train de dire que dans un certain nombre de centres-villes, il faut moins de voitures avec des moteurs thermiques. Ce qui me semble d'ailleurs quelque chose de tout à fait audible. C'est quelque chose que je peux entendre. Mais il est clair que pour les constructeurs qui font des voitures thermiques, on va pas se mentir. Et pour les gens qui travaillent chez eux, ne nous mentons pas, ce n'est pas une très bonne opération. Mais si dans le même temps, on se dit, ouais, mais en même temps, on va développer des transports publics et puis on va faire beaucoup de voitures électriques. Et ces voitures électriques, on va les alimenter par justement du nucléaire de la nouvelle génération quand ce sera possible. C'est pas encore parfaitement au point, mais quand ce sera... si on a ce type de projet, mais ça va être formidable parce qu'on va faire plein de nouveaux emplois.
Oui, mais bien sûr, ça va être super et on va faire de nouveaux emplois. Mais quand? Parce que la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Alors, elle est écologique, Alexandre Perra, mais elle est aussi économique. Ça veut dire que comme il faut passer d'abord par la destruction, on se base sur quelle échelle temporelle?
Nous, on pense que
aujourd'hui, vous avez une vision.
C'est tout de suite. Et aujourd'hui, on peut engager des investissements dans différentes énergies. Je ne veux pas toujours parler du nucléaire qui produit beaucoup d'emplois, mais l'éolien offshore, c'est-à-dire sur maritime aujourd'hui, 2000 emplois en France.
Combien, pardonnez-moi ?
2000 emplois en France. Emplois. On va monter en gamme au fur et à mesure qu'on développera cette énergie. On va créer de l'emploi en France. L'hydrogène, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Il se trouve que nous avons investi dans l'emploi, dans l'hydrogène, en France, dans la Drôme. On a pris des parts dans une petite société qui s'appelle McPhy, dans la Drôme, qui développe de l'emploi parce qu'elle développe des nouveaux projets hydrogène. La pompe à chaleur, c'est 80% de la valeur ajoutée d'une pompe à chaleur qui est faite en France. Voilà. Et pourtant, on ne produit pas assez de pompes à chaleur en France parce qu'on n'a pas encore engagé la rénovation des bâtiments pour électrifier les bâtiments.
Il y a une magnifique initiative européenne, ce qu'on a appelé l'Airbus des batteries. Vous savez, c'est cette idée qui consiste à dire aujourd'hui, les batteries de voitures, elles sont faites quasi uniquement en Asie, et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup d'emplois. Eh bien, l'une des plus grandes usines de batteries européennes, elle va être implantée dans les Hauts-de-France, qui est une région qui a aussi un peu souffert de la désindustrialisation. Donc c'est formidable. Et ça arrive vite. Mais il faut des gens, attention, qui soient formés à ces nouvelles technologies. Parce que la filière hydrogène qu'on est en train de monter, c'est passionnant, c'est le coup d'après. Mais en France, les gens qui sont dans cette industrie, ils me disent, attention, on a un peu du mal en France à trouver des gens qui sont formés à ces technologies. Donc vous voyez, c'est complètement idiot parce qu'on va faire des investissements et peut-être qu'on va être obligé de faire venir des gens qui viennent de l'étranger pour travailler chez nous. Alors j'ai rien contre, mais enfin, moi je préfère que ce soit quand même... Si vous voulez, des gens qui résident en France, qui travaillent dans l'hydrogène.
Bon, alors on verra si ces formations aujourd'hui, elles sont là quand même à la disposition de ces Français qui peuvent
Il faut aller plus vite et plus fort.
Alors c'est là qu'il faut aller. Donc merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en dire plus, Alexandre Perra et Nicolas Bouzou, sur ce sujet. Merci à vous. On va se retrouver dans un instant avec musique. 20h, c'est Émilie Mazoyer qui prend les rênes. Avec ce soir un invité de marque, il sort son nouvel album Grand Prix, Benjamin Biolay. Comment est la peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Ah oui, Benjamin Biolay qui est revenu avec ses guitares et qui séduit énormément avec ça. Donc il est avec Émilie Mazoyer. Nous, on se dit demain 18h-20h.
Bien sûr,
voilà,
bon rendez-vous.
Ça pour écouter ensemble, bien sûr, Le Monde Changé. Très belle soirée.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.
Europe 1.